On va donc commencer notre deuxième séance concernant cet atelier consacré à la Renaissance. Vous savez que la fois dernière, je vous avais livré toute une série d'œuvres diverses et variées provenant des quatre coins, pourrait-on dire, de l'Europe. Ça nous avait permis de défricher un peu les choses et de nous mettre en jambe concernant cette question de qu'est-ce que c'est que la Renaissance et quels sont les grands points qui permettent de la définir. Aujourd'hui, et je vous l'avais un petit peu annoncé, on va commencer avec cet acte 2 et jusqu'à la fin, à regarder d'un peu plus près des domaines territoriaux plus particuliers. Je ne vous dis pas quel secteur territorial on va regarder aujourd'hui, ça va être à vous de le deviner. On va regarder une petite vingtaine de diapositives avec des œuvres sur lesquelles on va discuter, on va essayer de comprendre un peu ce dont il s'agit. Je pense que le territoire d'où proviennent ces œuvres vous apparaîtra petit à petit, hein, on va voir. Enfin, on va essayer de discuter autour de ces œuvres, de les caractériser et ainsi de faire le profil renaissant du territoire que l'on va explorer aujourd'hui. Vous êtes prêts ?
Oui.
Eh bien, allons-y. Première œuvre que je vous soumets, alors je vous remercie comme d'habitude d'appliquer notre méthodologie hein, que vous connaissez, comme je ne vais pas vous rappeler, on commence par les choses les plus factuelles, après on va vers les questions touchant à l'iconographie, voire son interprétation. Alors voilà, à vous.
Un
bas-relief, effectivement.
Une mise au tombeau.
C'est effectivement une mise au tombeau, oui. Est-ce vraiment d'ailleurs une mise au tombeau ?
C'est avant.
Non,
c'est oui, c'est avant. Quand est-ce qu'on appelle le...
Alors,
c'est après.
C'est entre les deux.
C'est entre les deux.
La déposition.
Alors, la déposition, c'est vraiment la enfin, c'est voilà, c'est la descente de croix. Il y a encore la croix, parce qu'il est dans la déposition. Alors là, la croix, elle n'y est pas. Hein. Mm-hmm. Donc, le Christ est là, il a été détaché de la croix. On n'est pas encore en train de le mettre au tombeau. C'est donc... Un autre moment qui a un nom, on appelle
c'est la déploration.
La déploration, hein, c'est la déploration. Et donc, qui est un moment spécifique hein, entre la descente de croix et les autres.
Oui, parce que chacun se recueille.
C'est ça, voilà. Un moment de recueillement pour la dépouille du Christ. Bien. Alors, qu'est-ce que vous auriez à dire maintenant qu'on a vu effectivement de quelle œuvre il s'agissait techniquement de... Vous n'avez pas dit la matière. Oui, c'est de la pierre. Je pense que c'est plutôt un type de calcaire, mais enfin, bon, une question de caractérisation des pierres, surtout via des diapos, n'est pas si simple. Hein. Alors, c'est effectivement un bas-relief, important de le dire. Alors, qu'est-ce que vous auriez maintenant peut-être à dire ? On a vu ce dont il s'agissait sur le plan matériel et sur le plan de l'iconographie.
C'est très antique.
Très antique, très antique, antique, très néo-antique.
Néo-antique.
Oui, oui. Quels sont les éléments qui font très antique
là-dedans ? Tous les drapés.
Oui.
Il y a beaucoup de mouvements.
Voire même les coiffures des dames, elles sont assez...
Oui, c'est les drapés, certaines coiffures, effectivement, oui.
La nudité.
Oui, la nudité, notamment la nudité du Christ, hein, qui est plus une sorte d'Apollon couché... que autre chose finalement, oui. Pardon.
Il était
fait
de beaux abdominaux.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est l'Apollon du Belvédère couché au lieu d'être debout, quoi. Hein. Oui. Et encore.
L'expression du visage.
Pardon.
L'expression du visage.
Oui. Qu'est-ce que vous auriez à dire au niveau de l'expression du visage ?
Ben, ils sont très expressifs. Mmh. Ils expriment la douleur.
Oui. En tout cas, certains d'entre eux, oui. Oui. Et alors, cette œuvre, ce bas-relief en pierre, qu'est-ce que vous le verriez, pour aller un petit peu plus loin, hein, vous le verriez réalisé dans quel contexte, à votre avis ? D'abord, à quoi peut-être s'intégrait-il ? Voilà, aujourd'hui c'est un bas-relief comme ça, mais vous le verriez dans quel contexte technique ? Est-ce qu'il était là pour poser une salle à manger sur un buffet. C'était sans doute un élément d'hôtel, effectivement. Oui, hein, voilà. Et alors maintenant, dernière question, la plus compliquée, vous mettriez ça où, à votre avis, et peut-être qui a réalisé ça, et dans quelle école artistique?
Ah, alors, tout ça, voilà. Il y a antiquisant, on dirait plutôt dans une école italienne.
Oui.
La position des mains de la dame qui est centrale, là,
oui.
On dirait celle de Mona Lisa.
Oui. C'est
donc, donc, on penche vers quelque chose d'italien,
peut-être. Oui, possible.
Possible.
D'un autre côté, l'arbre, c'est un chêne.
Pas chêne en Italie.
Ah, si, si, il y en a. Oui, si, il y a des chênes. Donc ça fait pas vraiment sud, le chêne.
Ah, l'Italie du Nord.
C'est un arbre. C'est pas vraiment un
cèpe
de vigne.
Oui. Non, non, c'est un arbre.
Non,
c'est
un petit arbre.
C'est un chêne. Il y a le chêne,
la feuille.
Oui, c'est un petit arbre.
Plutôt symbolique.
Oui, 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 il est un petit peu rabougri, mais il faut qu'il tienne dans le relief. Bien. Donc je crois qu'on a bien regardé cette œuvre. Est-ce que vous auriez encore d'autres choses à en dire?
Il y a vraiment beaucoup de mouvements de la drapée, de la
boulée. Oui, beaucoup de mouvements.
Les drapés,
oui.
Sont
je dirais un certain mouvement. Oui. En tout cas, les drapés sont très présents, effectivement, très travaillés. Hein. Vous mettriez ça au début, au milieu, à la fin du 16e, ou peut-être avant, hein, puisque...
Non.
On a vu la dernière fois qu'il y a certains endroits où la Renaissance commençait très tôt. Hein. Vous parliez de l'Italie la fois dernière, en montrant bien que l'Italie, c'est un secteur où la Renaissance commence avant, en gros, le 16e siècle. C'est plutôt le moment où commence la Renaissance, par exemple, en France ou dans d'autres pays d'Europe.
C'est forcément au milieu.
Pardon.
Au milieu.
Au milieu.
Est-ce que c'est présenté par ordre chronologique?
Non, j'ai mélangé ça. Voilà, c'est pas. Il n'y a pas. L'ordre est désordonné. Bon, donc est-ce qu'on reste courageusement sur l'idée du milieu?
Le
milieu ou la fin? Bien. Bon, je note qu'il y a une tentative courageuse de. Alors, on regarde une deuxième.
C'est un tableau.
Alors ça, c'est une peinture, effectivement. Un tableau.
Une fresque, non, peut-être.
Je ne sais pas. C'est plutôt sur un mur, une peinture murale.
Oui.
Oui. Bon, une peinture, peut-être une peinture murale, même si d'autres y voient plutôt un tableau, bien.
On voit pas bien.
Mais
au fond, il y a deux personnes colorées.
Alors, il y a l'effet des personnages au fond, mais enfin, il y en a devant aussi. Hein.
Oui, justement,
c'est
bien.
Il fait quoi?
Ben, qu'est-ce qu'il fait?
Eh ben, on voit pas.
Il sculpte, non?
Je vois pas bien.
On voit pas ce qu'il fait.
On a un personnage ici, effectivement. Vous ne m'avez pas dit précisément ce qu'il y avait à droite. Vous êtes attaché à ce qu'il faisait, mais il, moi, je ne sais pas qui est il.
Une dame
nue. À droite, il y a effectivement une femme dénudée.
Un monsieur aussi.
Et un monsieur qui l'est tout autant. Bien. Puis il y a deux autres personnages, mais vraiment à l'arrière-plan, qui ne sont pas vus. Bien. Et alors, si on revient aux deux personnages à droite, vous avez commencé à dire, sans parler du tout qu'il y a deux personnages à droite, vous disiez, il est en train. Bon, maintenant on sait qu'il y a un monsieur nu au premier plan, une dame nue. Alors, le monsieur nu, il est en train de faire quoi?
Il
est en train de.
De graver le nom de la dame.
Graver.
Alors, peut-être de graver quelque chose. Effectivement, il a dans sa main un stylet. Et il grave sur un support quelque chose.
Un légume pour la vie.
Pardon, oui, bah, peut-être effectivement, des amoureux qui gravent leur nom, c'est vieux comme le monde, ça. Hein? Il y a du vécu, là, je sens.
Un cadeau.
Bien. Ça vous va, ça, comme explication?
Sans être très joyeux. Le personnage, c'est celui qui tend la main. Il veut dire quelque chose, comme, ou il montre.
On dirait qu'ils sont... Oui, on voit effectivement un personnage qui dit quelque chose à un autre.
Ils font quoi?
Oui, on sent qu'on est peut-être un peu en Orient.
Est-ce que les deux personnages du bas ne sont pas à la recherche des, du couple?
Non. Peut-être.
Ils les ont découverts.
Les feuillages, moi, ça me fait penser aux tapisseries.
Aux tapisseries.
Oui, les feuillages, là, on dirait.
Ou mille fleurs, ou des choses comme ça. Ou aux tapisseries qu'on voit, oui. Je comprends. Bon, et cette scène où on a... Oui, vous disiez, pardon.
J'ai plutôt l'impression que ça donne l'impression de vent.
De vent?
Oui.
Il y a du vent, quoi.
Il y a du vent, ouais.
Ah, ben, peut-être.
Donc, je ne sais pas, il se prépare peut-être un orage. Ou...
Ah, c'est vrai que le ciel semble chargé, voire dénoté. Un carton de tapisserie, vous penseriez à ça?
C'est possible, c'est possible.
Oui, vous disiez, pardon.
Ce ne serait pas la représentation de deux scènes? Et le personnage serait la suite de la première scène?
Ah oui, on aurait donc deux scènes représentées en une. Peut-être, on a vu ça souvent, effectivement.
Et alors, qu'est-ce que vous nous montriez, là, en bas, à gauche?
C'est la question que je vous pose.
C'est un chien?
Ceux de devant
doivent le voir. C'est un chien?
Il y a effectivement des animaux. Je ne crois pas que ce soit un chien.
Un mouton.
Il y en a même sans doute plusieurs. Enfin, on en voit assez bien un. Ça voudrait dire quoi?
Un berger.
Voilà. On est que ça, c'est peut-être des bergers.
Bon. Ils ont découvert.
Je ne suis pas sûr. Enfin, moi, je ne vois pas des masses d'interactions entre le couple au premier plan et le personnage au deuxième.
Moi non plus. Non, c'est
pour je ne vois pas. Alors, peut-être qu'il y en a, hein, mais pour ma part, je ne les sens pas trop. Non. A priori.
C'est pour donner une idée pastorale de l'ensemble.
Alors, c'est peut-être plutôt, effectivement, pour donner une idée pastorale ou...
nature.
Voilà, rustique. Peut-être. On n'est pas dans un palais avec des colonnes. On est plutôt dans un milieu rustique. C'est la campagne. Il y a des bergers. Ils sont peut-être plus là, effectivement, pour camper le contexte. Mais alors, c'est quoi ces deux personnages au premier plan?
C'est de la mythologie.
Mythologie, ça, c'est une possibilité. Et alors, est-ce que l'explication qui a été donnée tout à l'heure vous convient à tous?
C'est-à-dire
l'inscription sur un arbre des noms de l'un. Je ne sais pas, c'est ce qui a été dit. Moi, je vous montre si ça
n'a
pas.
C'était une bêtise.
Ah, c'était une bêtise. Donc, ce n'est pas ça.
C'est
si, je ne sais pas.
Ah, il est peut-être en train de dessiner le visage de sa belle.
D'accord, donc ce serait monsieur qui est en train de dessiner le visage de madame, ou d'inscrire son nom, comme vous le disiez tout à l'heure.
Sur un rocher.
Est-ce que ça vous va ou ça ne vous va pas du tout? Ou est-ce qu'on voyait d'autres possibilités?
On voit mal.
Ah oui, mais en art, on voit souvent mal. Il faut réfléchir, voir ce que ça peut être, fouiller dans ses souvenirs pour voir à quoi ça peut faire penser, voir d'autres œuvres qui peut-être représentent la même chose. Soit c'est un rocher, soit c'est un arbre.
Oui,
de toute façon, visiblement, il inscrit quelque chose sur quelque chose. Bon, voilà. Si c'est un rocher ou un arbre, à mon avis, c'est peut-être pas ça qui est le plus important. Non. Sur un support. Voilà. Il inscrit quelque chose sur quelque chose. Voilà. Après, c'est un rocher, un arbre, peut-être un peu secondaire. Hein. Ça vous rappelle une scène? Ça vous dit quelque chose? Vous pensiez plutôt à une scène mythologique, hein, vous le disiez tout à l'heure. Et vous voyez une scène mythologique qui évoque ça?
Pas vraiment.
Bien. Alors, qu'est-ce que vous auriez à dire, puisqu'au niveau du sujet, on est un petit peu court, là, qu'est-ce que vous auriez à dire sur, je dirais, le style, entre guillemets, de cette œuvre?
Ça pourrait être dans un palais, quelque chose d'un peu érotique.
Oui, alors, effectivement, il y a une suggestion assez érotique, hein. Ça, c'est clair, oui. Qu'est-ce qui fait que c'est de la Renaissance et pas du 15e ou du 14e siècle?
C'est parce qu'on est dans le cours de la Renaissance.
C'est
parce qu'on travaille sur un indice. Bien, mais imaginez qu'on ne travaille pas sur un indice. Je vous montre ça. On ne sait pas sur quoi on travaille. Qu'est-ce qui fait que vous pouvez dire que ça date de là, à l'époque de la Renaissance ?
C'est la référence à la Grèce et puis la référence au, à la nudité également.
Alors, la nudité, ok, la Grèce, donc c'est une scène tirée de la Grèce antique ? Ah.
En tout cas, c'est pas
vous
des
séchez, oui. Oui,
pardon. En tout cas, c'est pas des saints.
C'est pas des saints, effectivement. Non, c'est pas des saints personnages, a priori en tout cas. Quand vous regardez fort, vous vous rappelez, on a vu une série de saints sans auréole, oui, et qui étaient vraiment représentés d'une manière très antiquisante.
Oui, mais ils ne seraient pas tout nus comme ça.
Encore que, on sera bien sûr. Bon, en tout cas, c'est la représentation très antiquisante qui vous semble dire ça, c'est la Renaissance. Non. Et c'est tout, point barre. Il n'y a rien d'autre, c'est déjà pas mal. Oui, on peut s'en contenter, mais on peut aussi peut-être aller un peu plus loin.
Disons déjà,
la finesse, oui, c'est ce que je trouve. Je trouve bien mou ce soir. Hein. Non, la semaine dernière, vous aviez mis l'idée à la seconde. Là, ça patine. Hein. Ça patine. Oh, ça c'est quand même un petit chef-d'œuvre.
Non, mais c'est la représentation des personnages n'est pas comme avant, parce qu'elle est beaucoup plus fine, plus travaillée.
Elle vous fait penser à quoi, par exemple ?
Ben, c'est un petit peu maniériste.
Ah, c'est-à-dire
La manière de Michel-Ange.
Et par exemple
Michel-Ange, un arbre.
Oui, et alors, vous me donnez un exemple de ce que vous me dites, ça fait penser à Michel-Ange, les corps musclés. Et à quoi, par exemple? Un chef-d'œuvre universel, que vous connaissez tous. Vous connaissez tous la chapelle Sixtine, hein, vous avez déjà regardé la chapelle Sixtine, vous aviez représentation des prophètes et des sibylles, des personnages à moitié nus, pourtant religieux. Hein. Comme dit, les personnages religieux ne sont pas nus, bah si, il suffit de regarder la Sixtine. Hein.
Ah, mais l'Ancien Testament, pas le nouveau.
Pardon ? Ah oui, mais rien ne nous dit que ce n'est pas l'Ancien Testament, ça.
Bah oui, c'est possible. Ah.
Donc ça peut être en lien avec la religion quand même. Hein. Et donc, effectivement, ces personnages nus, musculeux, contournés, font beaucoup penser à, effectivement, à ce que l'on voit, la Sixtine, par exemple. Et quand vous parlez de maniérisme, vous vous rappelez, on avait parlé du maniérisme la dernière fois, vous en souvenez, hein, hein. Et bien voilà, on a une œuvre là qui est complètement maniériste, effectivement, hein, qui se réfère, mais de manière évidente, hein, à Michel-Ange, hein, évidente. Hein. Ce que vous voyez là, à droite, c'est des citations de la chapelle Sixtine. Et alors, vous verriez ça fait où ? Dans le même territoire que l'œuvre précédente. Mais encore. Ça, je peux vous le dire. Pardon ? À Rome, donc en Italie. Donc ce serait une œuvre maniériste, d'autant plus que faite en Italie, elle se réfère à l'œuvre faite en Italie. Ok ? Bon. Alors, on va aller voir une œuvre, j'espère qu'elle va vous... Elle vous vient d'abuser un peu plus, hein?
Château d'Essence.
Bien. Mais il y en a quelques-uns et dans pas mal de lieux.
Pas très important quand même.
C'est peut-être une belle parallèle, mais enfin,
ouais.
Une arrière-mère.
C'est l'arrière.
Donc, on a là un détail, une vue de détail d'un château. Ils sont bien brillants dehors. Oui, plus qu'à l'intérieur, je trouve.
Ça nous déconcentre.
Bah oui, c'est ça. Donc, une vision donc que nous voyons là un détail.
Ils ont eu plein de petits gâteaux.
D'un château. Ah oui, ils ont eu plus ou moins. D'un château. Voilà, mais à part ça, je vous attends. Qu'est-ce que vous auriez à dire?
Moi, je suis française, lui.
Oui.
Ah, vous êtes français. Donc maintenant, on part en France.
Là-bas,
vous êtes en Italie, nous nous replions en France.
Oui, voilà.
Château de la Loire.
C'est la cour
intérieure d'un château de la Loire.
Ouais. Là. De la Loire, soit
je crois. Ah, c'est pas, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Moi, je ne fais que répéter, vous savez. C'est que annommer ce que l'on dit.
D'un château français.
Cour intérieure d'un château de la Loire, pas
d'un château français.
D'un château français. Bien. Alors donc, qu'est-ce qui est français? Vous allez me définir ce qui est français, parce que c'est un château français.
Ben, ça ressemble à ceux qu'on connaît.
Voilà.
Ah, voilà. Mais encore.
Les très basiques.
Très basiques. Bien. Bon, aujourd'hui, vous êtes...
c'est la veille des vacances.
C'est ce que je vois, c'est ce que je vois. C'est toujours vous, la veille des vacances. J'ai remarqué, toujours comme ça. Vous ne devriez jamais être en vacances. Vous pensez que les vacances, c'est une chose très mauvaise. Les gens se rabolissent. Un fronton, où est-ce que vous voyez un fronton?
Je ne sais pas si c'est un fronton ou un portique, je ne
sais pas. Avec des niches, là.
Alors, un portique, c'est un alignement de colonnes sous lequel on peut passer. Non, mais ça, c'est pas tout à fait un portique.
La composition des fenêtres avec des meneaux.
Alors, la composition des fenêtres avec des meneaux. Qu'est-ce que ça vous dit, ça?
Ça, c'est fin Renaissance.
Fin Renaissance, c'est-à-dire, on voit ça arriver quand?
Ah ben non, les meneaux, ah ben c'est le Moyen-Âge.
Moyen-Âge, oui, mais c'est la fin.
Mais t'es venu, d'accord.
Oui, mais c'est pas... Moi, pour moi, c'est pas fin...
Non, c'est plutôt début.
Ouais, c'est plutôt début, là.
Ah.
Ah oui, les meneaux, oui.
Ah ouais.
On nage un peu, aujourd'hui.
C'est grand, là.
Remarquez, c'est un petit peu ce que je souhaitais provoquer. Parce
que ce ne serait pas dans l'heure.
Dans l'heure.
Annette.
Annette. Ou Annette, je n'ai jamais su ce que vous avez.
Annette, c'est
donc, on a dit qu'il y avait des fenêtres à meneaux. Alors, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a ceux qui disent les fenêtres à meneaux, c'est la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance. D'autres qui disent, mais non, ça existe dès le plein Moyen-Âge. Alors, je ne sais pas qui est d'accord avec ça.
C'est un cheval. C'est fin Moyen-Âge, début Renaissance.
Ouais. Mais qu'est-ce qui est fin Moyen-Âge, début Renaissance?
Eh bien, les fenêtres à meneaux. Par contre, les ouvertures dans les joints, là-dessus, ça, c'est Renaissance.
Oui, avec les
clochetons, sans Renaissance. Et la façade très droite, très lisse, c'est Renaissance.
Donc, si je tente de reformuler ce que je crois entendre, j'entends qu'il y a des éléments qui sont... encore assez médiévaux, par exemple les fenêtres à meneaux, dont certains ou certaines disent ça existe assez tôt au Moyen-Âge, d'autres c'est de la fin du Moyen-Âge, et puis des éléments plus renaissants, comme par exemple, vous avez dit les fenêtres et les colonnes sur la façade. Et le dessus des fenêtres.
Les sculptures dessus des fenêtres sur le toit.
Okay.
Les fenêtres de toit.
Donc on aurait là une sorte de combinaison d'éléments assez traditionnellement médiévaux, plus ou moins anciens, les meneaux, et d'éléments plus innovants et plus renaissance, couronnement des fenêtres et colonnes au centre.
Oui, ça les, va, ça Les médaillons entre les fenêtres et les colonnes, en bas, au premier étage, au rez-de-chaussée.
Alors, ici, les niches et les médaillons. Donc, on a décidément un corps central qui semble très renaissant, mais sur une façade qui, à part les fenêtres supérieures, semble très Moyen-Âge finissant. Ça vous va, ça?
Oui.
Ah, bon, on y arrive. Ok. Et donc nous sommes devant, alors certains disent un château de la Loire, d'autres ont dit Écouen, d'autres ont dit Annay. En tout cas, tout ça, c'est très français. Donc on est en France.
On est en France. Oui.
Donc on est en France. Bien. Et alors on tranche pour trouver le château en question ou pas?
Pas tout de suite.
Pas tout de suite. Pas tout de suite. Bien. Alors, voilà qui va peut-être nous aider, l'œuvre suivante.
C'est Saint-Jean-Baptiste.
Saint-Jean-Baptiste.
Une sculpture en marbre.
Alors, d'abord, une sculpture en marbre, effectivement.
Là aussi, c'est un style très...
Ah ben, académique. Hein.
Alors, très... Est-ce qu'on peut dire vraiment académique?
Ah ben, quand même,
l'académie de peinture et de sculpture n'existe pas trop encore.
Oui, hein. Non, ben d'accord. Mais...
Non, je n'ai pas dit académique, j'ai dit Michel-Ange.
Alors, vous disiez Michel-Ange, c'est elle qui dit. Voilà, alors effectivement, ça fait beaucoup penser à Michel-Ange. Donc, on est là devant une œuvre.
Maniériste.
Pardon ?
Maniériste.
Maniériste. Hein. Parfait. Qui représenterait donc, dites-vous.
Jean-Baptiste.
Saint-Jean-Baptiste.
Est-ce que c'est un mouton, là? Il peut baptiser,
là. Oui, mais il baptise dans l'eau. Lui.
Oui, il y aura un peu d'eau à ses pieds.
Et c'est pour ça qu'il est pieds nus.
Il n'a pas le vêtement habituel de Saint-Jean-Baptiste.
Non, il lui manque la peau de mouton.
Il lui manque la peau de mouton.
Et là aussi, concernant le style de l'œuvre, vous avez parlé d'une œuvre maniériste, ok, donc se référant à Michel-Ange, par exemple, après tout, grand peintre, mais aussi grand sculpteur. Hein.
C'est curieux, si c'est un Christ qui bénit, on a l'impression qu'il bénit quelque chose qui est en contrebas.
Oui. Ben, c'est peut-être nous, d'ailleurs.
Mais peut-être que la sculpture était en hauteur.
Voilà, peut-être que la sculpture était faite pour être en hauteur. Oui, vous disiez ?
Mis en haut d'une
colonne. Peut-être, effectivement. Peut-être la sculpture a été faite pour être mise en hauteur, et donc nous étant en dessous, on était le destinataire de son regard, oui. Ok. Alors, est-ce que cette œuvre vous confirme ce que nous disions auparavant, c'est-à-dire la dimension française de tout ce qu'on regarde?
Ouais. Ça contredit pas.
Ça contredit pas.
Ouais.
Voilà.
Mais quel sculpteur français?
Oh. Eh oui, c'est la question que j'allais vous poser. J'ai l'impression que... Vous connaissez des sculptures françaises du 16e siècle?
Carpeaux,
c'est du 19e. Donc on est vraiment beaucoup plus tard.
Il y en a qui s'appelle Cousin, mais je ne sais plus le prénom.
Cousin?
Oui.
Jean Cousin. Donc voilà un sculpteur du 16e siècle, Jean Cousin, français. Ça vous va les autres?
Non,
je ne sais pas. En tout cas, c'est déjà ça. C'est déjà une première chose.
Mais on fait confiance à la
Voilà. Ouais. Bien.
Ça serait le même sculpteur qui aurait fait Parolyès.
Ah, peut-être. Donc vous verrez un rapprochement entre le bas-relief et ça.
Ça pourrait, oui.
Les drapés.
Vous y tenez à vous draper, hein.
Oui, mais il a moins de barres de chocolat. Hein,
moins de barres de chocolat, bah, vous savez, il n'a pas fait son sport, c'était pour ça. Hein. Allez, on voit une œuvre suivante.
Ah, c'est deux
bas-reliefs.
Deux bas-reliefs. Diptyque.
Un diptyque.
Oui, les verrons ensemble.
Peinture sur bois.
Alors, D'abord, au niveau matière, j'ai entendu que c'était des bas-reliefs et j'ai entendu que c'était des peintures sur bois. Alors, sont des peintures sur bois. Ok, bien. Mais encore.
Elles vont ensemble.
Ah ben, je ne sais pas, vous me le dites.
En tout cas, on dirait bien quand même. C'est un peu le même style.
Pourquoi nous les présenter ensemble si elles ne vont pas ensemble?
Oui, ça, c'est une bonne remarque. Parce que je vous fais des petits pièges, mais quand même.
Ça fait assez ancien.
Oui, assez ancien.
Ah oui, ça c'est
fin du Moyen-Âge.
Donc, fin du Moyen-Âge.
Oui, parce qu'on trouve un petit peu le style.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Les drapés,
mais c'est moi, les drapés, ils vous disent plein de choses.
Hein.
Non, mais s'ils étaient tous nus, on n'aurait pas grand chose à dire. Hein.
Il y a une date. Il y a une date sur la colonne, 1535.
34. Et ben voilà, qui voilà. Vous donne la date. Voilà.
Donc c'est début 16e.
Alors c'est le Christ qui fait quoi?
Ah, ben ça, oui, c'est le Christ.
C'est Thomas.
C'est Thomas.
Vous n'avez pas encore tout exploité au niveau de la matérialité. Hein. Avant de vous exciter sur ce que ça représente, regardez déjà quels objets vous avez devant vous.
Oui, il y a pas
Marie-Madeleine. Alors, il y en a un qui est à gauche, c'est Fillon à Mimet.
Oui, ça, c'est Marie-Madeleine.
C'est Marie-Madeleine, puisqu'il y a son pont. Oui.
Alors, si vous voulez effectivement absolument aller vers la représentation, l'iconographie, à gauche, vous auriez quoi?
Marie-Madeleine. Le Christ qui vit ne me touche pas.
Voilà, le Christ qui dit à Marie-Madeleine. Voilà. Donc, on appelle cette scène effectivement comment? Le Tanger. Est-ce que vous pouvez me rappeler ce dont il s'agit précisément?
C'est le Christ qui est sorti de son tombeau.
Oui. Donc, après la résurrection du Christ, effectivement, il sort de son tombeau, oui.
Et Marie-Madeleine arrive, elle ne voit plus le Christ.
Oui.
Elle voit un jardinier
oui.
loin.
Oui.
Et elle s'approche de lui, et là, elle le reconnaît.
Oui. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'il dit, lui?
Il dit, ne t'enverrai, ne touche pas.
C'est ça. Parce qu'elle veut le toucher, elle est contente de voir le Christ. Mm-hmm. Voilà. Et il lui dit, ne me touche pas. Et pourquoi est-ce qu'il dit ça?
Parce qu'il faut qu'elle croie sans toucher.
Voilà, il faut qu'elle croie sans toucher. C'est-à-dire que c'est l'idée de la foi. La foi, ce n'est pas quelque chose qu'on croit parce que c'est comme une table devant soi. Hein. La foi, c'est quelque chose auquel on croit, même si on n'a pas la preuve tangible et terrestre. C'est ça le message du « noli me tangere », « ne me touche pas ». Donc on aurait à gauche la présentation du « noli me tangere », la Madeleine, ici, Marie-Madeleine, et ici, le Christ. Okay. Qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît Marie-Madeleine?
Son pot.
Mais pourquoi est-ce qu'elle a un pot, Marie-Madeleine? Voilà, le pot à onguent qui lui servait à quoi?
Pour
moindre le corps du Christ. Voilà. Entre parenthèses, elle n'est pas toute seule, Marie-Madeleine. Regardez, il y a quelqu'un
derrière.
C'est le commanditaire. Comment est-ce qu'on appelle le commanditaire aussi? Le donateur. Pourquoi vous reconnaissez le donateur? C'est celui qui a en fait payé le peintre pour les
aides.
Il est
habillé.
Alors lui, il est habillé effectivement en costume contemporain, c'est-à-dire de la Renaissance, au début du XVIe, oui.
Et
il est en train de prier. Voilà, hein, il a, vous le voyez, les mains jointes. Il est agenouillé derrière. Il a un costume qui n'est pas le costume antiquisant des deux personnages. C'est donc le donateur, celui qui a payé le peintre pour réaliser l'œuvre. Très bien. Donc ça, c'est pour le panneau qui est à gauche.
Et donc, c'est l'inverse.
Et donc, c'est l'inverse.
C'est Saint Thomas.
Voilà. Donc, c'est Saint Thomas qui touche. Parce que qu'est-ce qui se passait avec Saint Thomas?
C'est-à-dire,
au moment où, après la résurrection, le Christ est apparu aux apôtres, saint Thomas n'était pas là, je vois, il avait autre chose à faire. Et quand il a vu les apôtres après, les apôtres ont dit, on a vu le Christ ressuscité, il a dit, ben non, je ne vous crois pas, je ne croirai que si je le vois et si je le touche. Ce qui s'est passé donc un peu plus tard, et là c'est le moment que saint Thomas donc met la main dans la plaie du Christ, et donc croit sa résurrection, parce que ben, là... Il le voit, il le touche. Bien, très bien. Ok, donc on a un peu l'inverse, finalement, du tableau précédent.
C'est le thème de la foi, d'une manière générale.
C'est ça, c'est deux scènes qui effectivement évoquent une sorte de rapport à la foi, pourrait-on dire. Hein.
Alors, au niveau de la matière, j'aurais envie de dire que c'était bien des fresques, parce que sur le tableau de gauche, j'ai l'impression que ce qu'on voit, c'est le support de la fresque, puisque la partie peinte a été abîmée et est partie matériellement.
Donc vous verriez des, en tout cas des peintures murales.
C'est ça, ouais.
Oui. C'est ça, murales. Ok. Peinture murale.
Et pourquoi il y a des charnières?
Oui. Ouais.
Il y a quatre charnières.
Vous pensez à ça,
oui.
À ça,
oui.
À ça, oui. À ça. Donc les charnières, vous pouvez plus penser à des panneaux de bois.
Ouais.
Ok. Il y a une chose qui me frappe, moi, quand je regarde ces deux œuvres, que vous n'avez pas du tout relevé.
Ah, est-ce que c'est le même peintre?
C'est pas le même style.
Oui, on voit ensemble, parce qu'il y en a
deux. Non, il y en a peut-être du Christ.
Il y en a un qui est très coloré et un qui est très
oui. Ah oui. Ben oui. Il y en a un à gauche qui est vraiment coloré, et l'autre à droite, qui est assez monochrome, c'est ça, qui est gris avec un peu de ton rosé. Mais enfin, il y en a un très monochrome et l'autre très coloré. Qu'est-ce que ça vous dit, ça?
Mais ça va ensemble, quand même.
Mais encore. Ah, ça doit vous rappeler des choses. Enfin, ça devrait.
L'intérieur
et l'extérieur.
L'intérieur et l'extérieur. Vous avez déjà vu des retables.
Oui, mais les retables à l'extérieur sont...
Alors, quand vous dites l'intérieur et l'extérieur, qu'est-ce que vous voulez dire?
La partie ouverte, quand le retable est fermé, la partie est fermée, normalement.
Donc, quand le retable est fermé, les peintures que l'on voit sont en grisaille, et quand il est ouvert...
C'est
encore c'est coloré. Bien. Ce qui veut dire que là, vous auriez quoi?
Deux faces d'une même.
Deux faces d'un même panneau. Vous avez la face intérieure à gauche et la face extérieure à droite. Ça, c'est ce qu'on voit quand le retable est fermé. Et ça, c'est ce qu'on voit quand le retable est ouvert. Parce que ces panneaux, ils sont faits pour, ce panneau, il est fait pour être tout seul?
Non.
Non, sur mon coin. C'est un panneau, ça. Pardon?
Non, ça fait partie de...
Ben, c'est vraisemblablement... Voilà, c'est vraisemblablement, effectivement, ce qu'on appelle un...
triptyque.
C'est-à-dire un panneau central qui ne bouge pas et deux panneaux latéraux. Ça peut même être un polyptyque. Hein. On connaît tous Braun, etc. Ou la symbolique. Bref, avec des volets qui s'ouvrent et qui se ferment. À l'extérieur, c'est en grisaille. À l'intérieur, c'est coloré. C'est donc ce que l'on verrait ici. OK? Alors, qu'est-ce que ça vous suggère, ça? Sachant que vous avez vu la date, puisqu'elle est marquée, ça va. Ça fait très Moyen-Âge encore. C'est-à-dire que là, on a une structure. On est à quelle date, rappelez-moi?
1535.
1537, c'est vraiment le XVIe siècle. Hein,
ouais.
Depuis 35 ans dans le XVIe siècle. Et on est là dans une œuvre qui est donc encore très médiévale. Parce que ce genre de schéma-là, ça existe depuis plus d'un siècle. Hein.
Avec la présence
et avec la présence du donateur. Voilà encore une chose très médiévale. Le donateur agenouillé dans la scène en costume contemporain, voilà une chose super médiévale. Donc on a là, à la Renaissance, quelque chose d'encore très médiéval. Est-ce qu'il y a des éléments qui, quand même, si je vous les fais montrer en dehors d'un Natuer sur la Renaissance, pouvez-vous nous faire dire, ben, c'est renaissant?
La façon
de
peindre.
La façon de peindre.
Et puis l'architecture, qui est un peu.
Pas figé, oui. L'architecture, ok.
Les colonnes.
Les colonnes, oui. Les pilastres, oui. La perspective, oui.
L'attitude des mains,
oui.
Les têtes des personnages derrière qui ont porté à tout ça qu'on avait vu la semaine passée. Là.
Oui, effectivement. Moi, je dirais également le corps du Christ, quand même. Hein. Parce que quand on voit la statue que je vous ai montrée précédemment et ça, c'est quand même la même famille. Hein. C'est-à-dire là, le corps du Christ est vraiment très, très renaissant, très antiquisant. Vous avez beaucoup moins ça au Moyen-Âge. Hein. pourrait l'avoir, et pas avec cette structuration antique. Ça. Et puis ce qu'on appelle, vous savez, le contrapposton, on en avait parlé la dernière fois. Déhanché. À droite, le Christ que vous avez, c'est vraiment une statue antique qui est déguisée en Christ. Ça, c'est vraiment l'élément renaissant dans un élément complètement médiéval encore. Une idée d'un nom, d'un... C'est toujours français, ça ?
Peut-être.
Alors, vous allez bien me dire un nom. Vous ne pouviez pas me dire des noms de sculpteurs français du XVIe, sauf Jean Cousin, peut-être. Mais là, vous avez bien une idée de nom de peintre français du XVIe siècle. Non ? Non, ça ne vous inspire pas plus ?
Il y avait Clouet, mais bon...
Clouet, effectivement. Bon, on verra ça un peu plus tard. Une mise au tombeau, pour le coup, oui. Alors vous avez dit, c'est un enfeu. Oui. C'est quoi un enfeu ?
C'est l'alcôve dans un mur.
Et qu'est-ce qu'on trouve dans l'alcôve ? Alcôve, une alcôve, pour moi, c'est un lieu où on met un lit.
Là, c'est un tombeau.
Ouais.
C'est dans une église.
Là, c'est dans une église. Mais un enfeu, c'est une sorte de grande niche, en fait.
Oui.
D'accord. Hein. Niche dans laquelle il y a quoi, en général ?
Un cercueil, un tombeau.
Un tombeau, voilà. Hein. Alors là, est-ce que c'est vraiment un tombeau ?
Non.
C'est la mise au tombeau. Alors, c'est vrai que ça ressemble à un enfeu, mais dans un enfeu, il y a un tombeau avec un mort dedans, quoi. Là, c'est pas tout à fait le cas. Là, il y a la représentation effectivement de la mise en tombeau du Christ, mais c'est pas un tombeau d'un personnage. C'est la représentation du monde du Christ. C'est pas le tombeau du duc de machin ou de la duchesse de je ne sais quoi. On est d'accord ? Donc c'est pas vraiment un enfeu. C'est une niche avec dedans la mise au tombeau. Ok ? Alors, qu'est-ce que vous dit cette mise au tombeau ?
Il y a beaucoup de personnages.
Oui. Pensez à Hautecombe.
J'ai déjà vu ça.
Pourquoi vous pensez. Enfin, j'ai une question. Pourquoi vous dites que c'est le temps du Christ, la mise au tombeau ?
Ah, ben je sais pas. Non, c'est vous qui avez dit au départ sa mise au tombeau.
Des personnages et des figures là.
Mais encore, alors que je ne sais pas qui vous voyez.
La
Vierge, elle est où ?
Au milieu.
Au milieu de la Vierge, ok. Ensuite,
Saint-Jean. Saint-Jean à sa gauche.
Saint-Jean ici, ok.
Peut-être Madeleine.
Madeleine est ici.
Peut-être.
Ok.
Puis,
peut-être devant avec son pot. Ok, voilà. Très bien.
Ouais.
Et puis
bah, Joseph Solgati.
Et Nicodème. Très bien. Ok. Bien, donc ce serait bel et bien la mise au tombeau du Christ. Alors. Parce que là, on a bel et bien.
Un linceul,
c'est tout ?
Non,
il y a le Christ.
Il y a le Christ
dans le linceul. Hein.
Oui, mais la personne qui est en avant, elle est comme les soldats latéraux, elle est en dehors.
Elle est en dehors ?
La femme assise, ou à genoux, je ne sais pas là. Oui.
Elle est sur un socle.
Elle est en avant comme les soldats.
Oui. Effectivement, elle est représentée comme les soldats un peu devant la niche.
Ouais, elle a des faits de style.
Donc ce sera en tout cas bel et bien la mise au tombeau du Christ. Ça vous va, ça ? Ça va à tout le monde ?
Oui.
Alors, là aussi, qu'est-ce que ça vous inspire ? Quand vous regardez cette œuvre, là aussi, stylistiquement, vous en dites quoi ?
Bah, c'est très Renaissance.
C'est-à-dire ? Dire très Renaissance, oui, mais il faut des arguments.
Très décoré. Des décorations fines et travaillées. Oui. L'arc surbaissé.
Oui. Ça, c'est très Renaissance.
Ah oui.
Oui. Bon. Et alors, tous ces décors sont très Renaissance. Tout ça.
La facture.
Non, les anges qu'il y a dessus, ça fait.
Ça fait plus gothique, mais...
Tout ça
ouais.
Ok. Alors, on est... c'est très gothique ou c'est Renaissance?
Oui, c'est un gothique. Gothique Renaissance.
Entre les deux?
Non.
C'est vrai que ça fait penser un petit peu au portail des Grids avec les films du Zodiac, mais il n'y a pas tous les...
Oui, effectivement. Donc, ce que vous trouvez très Renaissance là-dedans,
oui, en fait,
c'est les décors, la profusion des décors ici
oui,
ou là.
De chaque côté.
Et le, de chaque côté.
De chaque côté.
Les pilastres.
Ah, les pilastres. Ouais, ouais. Là, effectivement, les pilastres de chaque côté pointent Renaissance. Ils sont en train. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire qu'ils sont très Renaissance?
C'est des vases Médicis, là.
Ouais, oui, mais encore.
La profusion de...
Médicis, moi, il faut tout m'expliquer, ça. Vous voyez.
C'est la profusion des plantes.
Oui, la profusion des plantes, on trouve ça à l'époque médiévale.
Non, mais pas...
Ils ont
une base carrée.
Pardon?
Ils ont une base carrée.
Oui, une base carrée, on l'a fait tout le temps, je crois. Non. Qu'est-ce que ça... Je sais pas, qu'est-ce qui fait que ces décors-là... Alors là, pour le coup, on peut vraiment dire qu'ils sont très Renaissance.
Parce qu'ils s'inspirent des mêmes décors de l'Antiquité qu'ils pouvaient voir en Rome ou à...
Et où, par exemple?
Sur les temples.
Oui, par exemple. Ou encore. Qu'est-ce qui a beaucoup frappé les gens de la Renaissance, par exemple à Rome, dans ce rapport à l'Antiquité?
Finesse des représentations, notamment.
Mais ça, ils se promenaient dans la rue, puis il y avait.
Des tombes.
Des tombes, oui. Une chose qui a beaucoup, beaucoup. On a déjà parlé à plusieurs reprises, hein, qui a beaucoup, wow. beaucoup marqué les gens, notamment à la Renaissance.
La découverte de nouvelles plantes.
Hein. Ouais, la découverte de nouvelles plantes.
Non.
Ah oui, alors là, vous partez carrément aux Amériques.
Ah oui, ouais. Ouais, c'était...
Et puis la découverte du palais de Néron.
Ah oui. C'est quoi la découverte du palais de Néron?
Qui était un peu enfoui, par accumulation par-dessus, en fait.
Eh oui.
Et puis avec un décor intérieur peint.
Absolument.
Et qui... Alors, il y a un mot particulier qui m'échappe.
Oui. Effectivement, on a à Rome découvert, en plusieurs temps, mais ça a commencé au XVIe siècle, des vestiges antiques nombreux.
Près du Colisée.
Et notamment près du Colisée, on a découvert l'ancien palais de Néron, qui s'appelle la Domus Aurea, hein, la maison dorée, si vous préférez. Et cette Domus Aurea, qui se vit encore aujourd'hui, hein, et était. A beaucoup frappé les esprits avec d'autres découvertes, hein, c'est pas... parce qu'il y avait à l'intérieur beaucoup de peintures ou de stucs, c'est-à-dire de reliefs faits en poussière de marbre, hein, le stuc c'est ça, et ces reliefs représentaient ce qu'on a appelé souvent des grotesques.
Ouais.
C'est-à-dire que puisqu'on a découvert ça dans des structures en profondeur, dans des grottes, on appelait ça des grotesques. Et le grotesque, c'est l'une des marques de la Renaissance. Quand vous voyez ça, alors là, vous voyez essentiellement des sortes de vases, de candélabres, de rinceaux, mais souvent, vous avez aussi des personnages, des animaux, et on appelle ça ces décors qui sont inspirés de l'Antiquité, et en particulier de ces peintures, de ces reliefs trouvés à Rome dans la Domus Aurea, on appelle ça des grotesques. Alors ça, c'est super Renaissance. Ça, vraiment, ça l'est. Hein. À mon avis, beaucoup plus que ça ou ça. Oui, pourquoi? Qu'est-ce que vous avez à dire de ça ou ça?
On reproduisait.
Oui, ça, absolument. Ça et ça, quand vous voyez ça, par exemple, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça vous inspire, ça?
Ça, c'est les trilobes qu'on trouve dans
les... Les trilobes, ça existe depuis quand?
Oh là,
depuis quand? Depuis quand? Depuis le 13e siècle, vous savez, 13e siècle, c'est pas tout à fait la Renaissance. Je suis allé à Cavalry Chalon. Hein.
Oui.
Voilà, c'est pareil, il ne faut pas aller bien loin. Hein. Je suis allé à Cavalry Chalon, vous voyez, trilobe du 13e siècle. Bah, le trilobe, c'est pas du tout Renaissance. Vous avez là un type décoratif qui existe depuis le Moyen Âge. Ça, c'est pas du. Et ça, c'est quoi ça?
Des sortes de feuilles d'acanthe.
Ouais, des feuilles. On appelle ça comment? Ça a un nom, ces espèces de feuilles là. Là aussi, vous avez les dans tous les monuments gothiques du coin. Hein, vous faites 500 mètres, vous voyez. Hein. C'est quoi ça s'appelle comment ça? Ces feuilles un peu frisées.
Des choux frisés.
Voilà, des choux, on appelle ça des choux frisés. Alors, les choux frisés, vous voyez ça à partir de quand? C'est très renaissance, les choux frisés?
Non.
Eh bien, non. Ça existe depuis l'époque gothique, dès le XIVe siècle, vous en avez, voire avant. Autrement dit, vous avez là des éléments très médiévaux que vous voyez dans n'importe quel monument gothique sous vos yeux. Là aussi, les choux frisés, il y en a plein. Quand on voit qu'il y a de Chalon, pas le bout du monde, vous avez des choux friseux, vous avez des triomes. Voilà un vocabulaire décoratif médiéval permanent qui existe partout en France, dans toutes les villes de notre pays. Et à côté de ça, voilà des éléments complètement renaissance que vous ne trouvez pas avant le XVIe, pour les raisons qu'on a dites. Donc vraiment, qu'est-ce que vous avez dans cette œuvre-là?
Un mélange
de quoi?
D'époque.
Alors, est-ce que c'est un mélange d'époque?
Non, je rentrais au château.
Deux.
Ouais.
Un mélange.
Oui, alors le château peut-être
de représentation.
Mais là, c'est peut-être fait au même moment.
Et bien voilà. Exactement. C'est fait absolument au même moment. C'est-à-dire, vous avez là une œuvre où tout est contemporain, mais il y a des éléments encore très.
Moyen-âgeux.
Alors je dirais médiévaux.
Moyen-âgeux.
On dit moyen-âgeux pour des choses. Moyen-âgeux est un peu péjoratif. On dira par exemple d'un artiste du 19e siècle qui fait des scènes moyen-âgeuses. Hein. En gros, il essaie de faire du Moyen-Âge, mais de manière un peu. Bon. Donc plutôt, voilà, médiévaux. Hein. Donc on a des éléments très médiévaux et en même temps des éléments. Est-ce que vous le percevez bien ça? Parce que ça, c'est capital. Hein. Si vous ne voyez pas ça. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que la Renaissance, parce que c'est capital, ça. Il faut, quand on voit une œuvre comme ça, tout de suite dire, tiens, ça c'est plutôt novateur, ça c'est plutôt traditionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut tout de suite que l'œil classe ça, vous voyez? Un peu comme dans l'œuvre précédente. On a vu qu'il y a des éléments très traditionnels, des éléments d'un peu liptique, d'un côté coloré, de l'autre en grisaille, et puis des éléments très novateurs, par exemple le corps du Christ. Vous voyez? Ça, il faut que vos yeux soit capable immédiatement de le voir. Ça vous va, ça?
Est-ce que les personnages ont été peints ou des
Pas évident, c'est pas sûr. En l'occurrence, je ne sais pas, hein. Mais c'est pas sûr. Vous savez comment on est, nous autres êtres humains, hein. Il fut un temps, on s'est dit, ouais, la sculpture médiévale, c'était jamais peint. Et d'ailleurs, quand ils étaient peints, souvent, on les a décapés. Et puis, maintenant, depuis quelques années, on dit, ouais, toutes les sculptures médiévales étaient peintes. Hein. Mais on oublie de dire qu'il y avait des sculptures qui étaient parfois pas du tout peintes, d'autres entièrement peintes, et d'autres qui étaient partiellement peintes et partiellement pas peintes. Donc il faut moduler à chaque fois, vous voyez ce que je veux dire. Là, je ne suis pas du tout sûr que ça ait été jamais peint, c'était peut-être tel quel. Alors, là on est toujours en France.
Oui.
Ça vous va, ça? Bon, allez, on va un petit peu plus loin.
Ça fait
très
nordique.
Ah, très nordique. Alors, on est toujours en France?
Non.
J'ai bien dit qu'on était dans un même territoire. Hein.
Le nord de la France.
C'est une peinture? Oui. C'est une peinture. Ah oui, absolument. Revenons à nos essentiels. Oui.
Une peinture.
C'est un portrait, c'est une peinture. Très bien. Alors, très nordique, disiez-vous. Très nordique de la France.
Nord-Est.
Ok.
Ou éventuellement Bourguignon.
Éventuellement Bourguignon ?
Oui, parce que.
Eh oui, le Nord-Est, c'est les restes de la Bourgogne.
Il me fait penser au célèbre portrait de Martin Luther.
Ouais. Qu'est-ce qui vous y fait penser ?
L'allure,
quoi. Ouais. Qui est une œuvre de qui d'ailleurs ? En tout cas, on a là un portrait d'homme votre, encore une fois, votre idée était de dire « Oh, c'est très nordique ouais. ». Vous avez parlé du portrait de Martin Luther, de...
Oh, c'est le chapeau.
Bon.
Il tient une bourse.
Oui.
Ou des gants.
Ou des gants, peut-être plutôt.
Oui.
Ouais. Alors, on est toujours en France, mais en France du Nord, alors. Une idée d'un artiste, peut-être ? Non ? Bon. Autre chose à dire sur cette œuvre ? Non. Alors, on passe à la suite. Non, c'est le ciel.
Blois.
Non.
Il
n'y
a pas d'escalier.
Ça peut être une des ailes du château de Blois. Hein. Oui, il n'y a pas d'escalier. Oui, alors ce que vous avez à droite, c'est le détail. Ce que vous avez là, c'est le détail de ça. Hein. Vous aurez compris ça. Alors, qu'est-ce que vous auriez à me dire là-dessus ?
Alors, des sculptures très renaissantes,
très renaissantes. C'est flamboyant.
Flamboyant. Alors, quand on dit c'est flamboyant, qu'est-ce
qu'il y a plein de petites sculptures.
Oui. Mais moi, je peux vous montrer une œuvre baroque pour plein de petites sculptures. Je connais plein d'églises baroques du XVIIIe siècle en Allemagne qui sont voilà, pleines de sculptures. Est-ce que c'est flamboyant pour autant ?
Non, non.
Alors là, qu'est-ce qui fait qu'on peut dire que c'est flamboyant ?
Parce que c'est très chargé.
Oui, mais l'église baroque du XVIIIe est très chargée. Donc est-ce qu'elle sera flamboyante ?
Ça fait un peu des dentelles, des trucs comme ça.
Un peu dentelles. Ouais, mais là encore, quoi, on peut trouver des... des églises baroques faites en 1780 en Allemagne avec de la dentelle, des angelots de tous les côtés. Et voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est flamboyant ? Qu'est-ce qu'on appelle finalement l'art flamboyant ? Ah, c'est la fin du gothique. Donc autrement dit, ce serait plutôt du gothique flamboyant.
Hein ? Voilà.
Pardon ?
Mais c'est pas ça.
Et alors ça, c'est pas ça. Ah, c'est pas ça. Donc, c'est pas du gothique flamboyant.
Non,
ça vous va.
Non, mais on peut même mettre un
menot. Ah oui, on retrouve la tête à menot tout à l'heure. Hein. Vous les voyez là, vous les revoyez en gros là.
Oui, elles ont duré longtemps.
Pardon, elles ont duré longtemps.
Très longtemps, ne serait-ce que pour la dimension des verres.
Eh oui, ne serait-ce que pour ça. Mais vous disiez
Châteaudun.
Mais avant de chercher de quoi il s'agit, analysons ce que l'on voit.
Alors, c'est une tourelle d'escalier, probablement.
Tourelle d'escalier,
c'est sûrement. Le décalage des fenêtres.
Oui.
Puisque c'est presque du haut.
Oui.
Donc, un décalage. Oui.
Ouais. Donc, on sent qu'il y a des paliers, quoi.
Oui. Ouais. Mais les escaliers solennels, elles sont postérieures. On pense à Louis XIV, c'est-à-dire l'escalier était à vis, en général.
Mm-hmm. Oui. Donc, vous pensez c'est ce qu'il y a à l'intérieur, là ?
Oui.
Vraisemblablement.
Il y a un reste moyenâgeux avec la tour défensive.
Oui, à droite. Mm-hmm.
Et la carrée ?
Oui, à droite. La carrée.
Ça, c'est pour vous très moyenâgeux, plutôt très...
Médiéval.
Donc, moyenâgeux, c'est pas un terme... On peut, quand on fera quelque chose sur du néo-gothisme, on pourra... Mais plutôt médiéval. Que vous
médiéval.
Ouais.
Voilà. Donc, effectivement, la tour à droite est très médiévale. Hein.
Ouais.
Et le reste, non.
Mais non, parce qu'on construisait par morceaux.
Ouais. Oui.
On voit l'évolution, parce que sur...
Pardon ?
Il y a quand même une évolution, parce que sur la gauche, à l'extrême, là, il y a la chapelle, on dirait.
Oui, exact. Ouais.
Et là, donc, on a après, ils ont construit, et la partie là qu'on voit, c'est la plus récente.
C'est ça. Donc, on aurait là quelque chose d'encore très médiéval.
Ouais.
Et là... C'est-à-dire là, quelque chose de très renaissant. Hein,
oui.
Okay. Et donc, qu'est-ce qui fait que cette tour d'escalier, elle est très renaissante ? Bon, vous n'étiez pas d'accord avec l'idée du gothique flamboyant, Chantal, tout à l'heure ?
Un décor chargé.
Oui. Un décor chargé, ok.
Bon.
Pardon ? pardon.
Non, puis c'est la joue sur les toits de plein de cheminées, oui. De ces toits en ardoise avec plein de clochetons par-dessus.
Ça, c'est très récent.
Oui, on les retrouve plus à la Renaissance, mmh. au Moyen-Âge, c'est sûr.
Et toutes les sculptures sur les murs, là, entre ouais. les fenêtres et tout.
Ouais.
Et des sculptures en bas-relief.
Oui, en bas-relief. Oui, oui. Ouais. Donc, ce que je retiens de ce que vous dites, c'est qu'on a là une construction assez médiévale, avec soudain un escalier qui lui est très renaissant. Et s'il est renaissant, peut-être parce qu'il a été fait après, hein, s'il est très renaissant, c'est surtout du fait de ces décors chargés, voire quand même aussi des toits et des décors qu'on trouve sur les toits. Ça vous va, ça ?
Oui.
Bien. Une idée du château, du lieu, de...
Ce décor-là est quand même pas très français, c'est ça qui paraît curieux.
Et pardon,
ça paraît curieux qu'une tour comme ça, avec toute cette décoration, se trouve en France.
Donc vous, l'idée de la France, vous paraît... Alors peut-être que l'œuvre suivante va nous permettre d'y voir un peu plus clair.
C'est Mercure.
Ça, c'est pour l'iconographe.
Une statue
en bronze. Très bien. Qui s'appuie sur la tête de...
Ben oui, pourquoi c'est quoi cette tête?
Oui, il y a une tête par terre.
Oui,
il y a
une tête.
Oui, qui aurait un peu un aspect, encore que ce soit pas évident, mais ce serait quoi l'air, cette tête?
Qu'est-ce qu'il y met dans les cheveux?
Méduse.
Ah, Méduse. Mercure et Méduse.
Non.
Oui, il y a un petit chapeau ailé.
Oui, comment est-ce qu'on appelle le chapeau ailé de Mercure? On l'a déjà dit.
Oui, mais on
l'a pas révisé. Le pétase. Le pétase, c'est le petit chapeau ailé de Mercure.
Non, ça c'est cheval.
Donc il y a un pétase. Alors c'est pas un pégase. Hein. Et alors qu'est-ce que c'est que cette tête qui est par terre?
Qui souffle.
Ah oui, qui souffle, effectivement.
C'est Éole.
Alors, c'est un vent. C'est peut-être pas Éole, mais c'est un vent. Il y a un vent qui est là et qui souffle, parce que Mercure, ben voilà, il vole. Et donc, le vent, les vents...
Il a des petites ailes.
Oui, il a des petites ailes au talon.
Il s'en va les...
Alors, cette œuvre vous dit quoi?
Cette œuvre, qu'est-ce que c'est cette tête?
Ça s'inspire de l'art antique.
Ça s'inspire vraiment de l'art antique.
L'art antique, dans la position,
le sujet. Voilà. Le sujet, la position. Très bien. Donc on est toujours en France, pas de problème.
Non, pas sûr.
On revient en Italie.
Ah, oui, parce donc, que vous pensez un petit peu au David de Donatello avec cette finesse.
Ouais. Bon. Donc, on n'est plus en France, on retourne en Italie.
Oui, mais il y a des Italiens qui sont venus travailler en France.
Ah, oui, ils sont venus travailler en France. Donc, ce sera un Italien qui est venu en France travailler.
Pourquoi pas la Joconde.
Alors, allons vers le suivant, parce que l'heure tourne. Hein. J'ai encore des petites choses à vous montrer.
Alors,
curieux. Bon, c'est une peinture, hein, je le dis parce que vous n'avez pas le dire.
C'est vrai.
Qui représente
le Christ.
C'est pas encore une déploration.
Une déploration, oui.
Bon, c'est même un moment où vous voyez le corps du Christ est contre celui de sa mère.
Ouais.
On pourrait même dire que c'est une Pietà. Hein.
Ah oui,
je sais. Il y a Jean derrière.
Ouais.
Enfin, il est quand même sur des petits coussins de volume.
Oui.
C'est
très coloré.
Très, très coloré.
Et puis très, très musculeux aussi à droite.
Oui. Oui, là on voit décidément, je crois qu'on reconnaît d'œuvre en œuvre cette dimension maniériste, hein, dont on a parlé X fois. Hein. On est là vraiment devant un artiste qui a vu, qui a regardé, qui a peut-être travaillé avec le tiercé gagnant qu'on a évoqué la dernière fois, Vinci, Michel-Ange, Raphaël. Bien. Rien d'autre ? Toujours la France ?
Non.
Ah non. Bon. Allez, on continue un peu plus vite pour les dernières. Une peinture ou une fresque, ok.
Très chargée,
bien.
Oh, la perspective.
La perspective. Là, il y a vraiment des jeux perspectives de construction, etc.
C'est l'entrée, c'est une entrée triomphale, non ?
Une entrée triomphale. Une scène qui se passe quand ?
Qui se passe pas. C'est complètement imaginé.
Une scène imaginaire.
Oui, parce qu'il y a une surcharge de plusieurs bâtiments différents.
Oui, une scène imaginaire, composée, recomposée, allégorique.
Peut-être.
Décomposée.
Bon, il y a le canal à droite, on ne sait pas ce qu'il vient faire.
Oui.
Il y a un aigle.
Un aigle.
Mais il y a une Pietà à droite.
En haut.
C'est une Pietà en haut à droite ?
Non, c'est une Vierge
et l'enfant. Une Vierge et
l'enfant.
Il y a
un obélisque. Obélisque au fond.
Oui. Donc vous y voyez plutôt une scène d'inspiration antique, d'après ce que je comprends, mais qui ne présenterait pas vraiment une scène, mais plutôt une sorte d'allégorie.
Un catalogue de tout ce qu'on connaissait comme lieu.
Une sorte de catalogue de lieux connus, comme ça. Qu'on aurait pu juxtaposer. Oui.
C'est l'école de Saint-Pierre.
Oui, on croirait voir les colonnes de Saint-Pierre,
le
torse,
de l'hôtel.
Et vous verriez plus ou moins une sorte d'entrée triomphale de quelque empereur, peut-être.
Il y a une femme,
celui qui est à genoux devant, là, il a la tronche d'un empereur.
Pardon ?
Celui qui est devant, il a tout à fait l'allure d'un empereur.
Oui, voilà, ce serait l'entrée d'un empereur. Oui, là, il a visiblement. Oui.
Mais elle, c'est qui ?
Elle lui montre la Vierge.
Oui, c'est vrai.
De quoi ?
Elle a un livre, non ?
Eh oui.
Elle est un livre, oui. C'est peut-être la conversion
de Constantin.
De Constantin.
Ah, la conversion de Constantin.
La conversion de Constantin avec Monique.
Donc la conversion de Constantin.
C'est elle. Et elle montre
la Vierge et l'enfant. La femme au premier plan montre la Vierge et l'enfant qui est dans le ciel, et Constantin se convertit. Et donc, c'est sa mère, Sainte Monique.
Sainte Hélène.
Monique, c'est Auguste. Bien.
Et donc, tout le reste, il abandonne les idoles.
Il abandonne les idoles.
Et
regarde la vraie foi qui s'étale devant lui dans les cieux.
Pour le faste catholique.
Bien.
Chrétien.
Ça vous va, ça ?
Oui.
Bien. Le nom d'un artiste, peut-être ? Non. On est revenu en France ou pas ?
Non.
Pas trop. Hein.
Non.
Ça, c'est chargé.
Ah, voilà, les coins.
Les coins, ça ?
Ah, bah, moi, je ne sais pas.
Moi, j'ai jamais été. Je ne sais pas. Je ne sais pas.
On n'a plus de mono.
On a plus de. Pardon ?
Dans les fenêtres à mono.
Ah oui, on n'a plus de mono. Oh, du moins, si on en a.
C'est facile, au premier étage.
Ouais. Mais ils sont différents, en fait, ils sont différents.
Oui, c'est pas...
C'est plus des huisseries que des meneaux.
Oui, hein, c'est plutôt des huisseries.
Donc, évidemment, les meneaux en pierre ont disparu. Ce qui voudrait dire quoi ?
C'est récent, tardif.
Oui. La Renaissance tardive.
Là, on sait dans le fond, quelque chose de la Renaissance tardive. Ouais. Bon, c'est quand même grand, ça passe pas inaperçu, ça, non, c'est où, ça ?
On a une symétrie.
Ouais. Ça me rappelle un peu quelque chose d'ailleurs, ça.
Mais ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est
le premier. Ouais.
Avec les statues, les colonnes.
Ouais.
des niches.
Ouais.
Là où il y a le jardin.
Oui, oui. Bon, là aussi, vous avez une idée d'un lieu. On est perdu.
Oui, ça fait plus Louvre que.
Ça fait Louvre ? Ah, carrément.
Une aile.
Ouais.
Moi, ça me fait penser à Vienne.
Ah, Vienne. Alors là, on sait bien exactement.
Mais il n'y a pas si longtemps.
Je sens que le territoire.
Bon, je. J'avais bien envie de vous perdre un peu. J'y suis un peu arrivé. Je suis assez pervers. Hein. Bon, on va regarder les dernières œuvres qui vont peut-être nous permettre de, hein, de voir plus clair. Parce qu'après, il faut corriger les copies. Hein. Ça, c'est ça permet de voir plus clair, ça, non ? Non ? Non.
Peinture, qui représente Ève, qui représente Ève,
pourquoi l'autre
Eva, Ève.
Ève, prima, Pandora.
C'est la première qui a ouvert la boîte de Pandore, c'est la boîte de la connaissance et qui est partie.
C'est ça. Eva, prima, Pandora.
Elle est bien représentée comme une statue grecque, donc la Renaissance.
Voilà, donc on a une peinture avec effectivement une femme nue, très hellénisante, très gréco-romanisante, très antiquisante.
Elle a un profil.
Pardon ?
Elle a un
crâne. Sur un crâne, oui.
Oui, c'est bien. Profil grec.
Et vous disiez à propos de Pandora, que c'était quoi ?
Bien, elle avait ouvert la porte de la connaissance et tout était parti, tout s'était perdu. Mmh. C'est ce qu'on dit, ouvrir la boîte de Pandore.
La boîte de Pandore. C'est ça.
Puisqu'elle a poussé Adam à manger la pomme. Et
ah, c'est ça. Et on aura un parallèle entre Ève et Pandore. Parce que Pandore, effectivement, nous le dit la mythologie, hein. On lui avait confié une boîte en lui disant surtout pas l'ouvrir. Parce que dans la boîte, il y a toutes les calamités du monde. Évidemment, Pandore a tourné autour de la boîte, mouvement, et là, elle a ouvert la boîte pour voir ce qu'il y avait dedans. Et toutes les calamités du monde sont sorties de la boîte, et on sauf une.
Pourquoi un crâne, pourquoi un serpent ? Parce que le serpent, c'est le serpent de la connaissance que suit dans le mythe.
Il y a le mélange des deux mythes.
Voilà, il y a le mélange des deux mythes. Pandore d'un côté, qui a amené dans la mythologie. Mal, en gros, quoi. Et Ève, qui a fait pareil. Ève, c'est le serpent, la pomme.
Enfin, et le crâne, c'est le symbole de la mort. Avant, ils étaient immortels, et après, ils étaient mortels.
C'est ça. Voilà. Donc, il y a une sorte de parallèle entre Ève et Pandore. Ève est la nouvelle Pandore. Eva, prima, Pandora. Ève, première Pandore. D'accord ?
Oui.
Bien.
On retrouve l'eau, comme tout à l'heure.
Alors, on est en France, on est en Italie, on est ailleurs.
On est perdu.
Bon, ça va nous permettre d'y voir plus clair.
Oui. On l'a déjà vu, ça.
Oh que oui.
Oui.
Bon, c'est pas gay, gay, gay.
Non, c'est pas qu'on puisse dire.
Oui.
On l'a vu dans l'Est.
Dans l'Est ?
Nancy.
Oui.
Nancy ?
Là-bas.
Par là-bas ?
Par là-bas.
C'est France.
Si, c'est un sculpteur. Mais si, vous nous avez fait un truc.
Je suis café dans le local.
Facile, hein.
Je termine, nous vous montrons les dernières pour qu'on ramasse vite les copies après.
Fontainebleau.
Ouf. Donc on est en France. Ça c'est Fontainebleau.
Voilà.
Enfin, un territoire connu.
Et ce qui n'est pas ça fait pas pareil dehors.
Ça fait pas pareil dehors.
Moi, je crois que vous avez la photo de. Parce que c'est cette barre grise là devant.
La barre grise devant. Ça.
Oui.
Ouais. Ah ben ça, c'est la diapo, le fond de la diapo, ça. Ouais.
Ah oui, la photo, ah, s'arrête.
Ça commence là.
Ah, oui,
ça s'arrête là. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors, on va terminer très vite, parce que je vois que l'heure tourne et je ne veux pas, voilà.
Ah, bien Diane. Bien
Diane.
Sculpture en marbre.
Hein?
C'est pas bon.
Sujet antique, manière de le traiter antique, c'est ça vous va tout ça?
Oui, c'est Goujon.
Pas trop difficile, pardon.
C'est Goujon.
Goujon? Goujon, c'est quoi Goujon?
C'est un
sculpteur. Donc ce serait de Goujon. Ok. Acceptons sans longueur. Et ça?
Ah, oui.
Ça, c'est
La femme de devant, on dirait, de l'école de Fontainebleau.
Ah, école de Fontainebleau, alors.
Voilà. Vous savez, les deux femmes donc, qui se touchent le piton.
Oui. Gabrielle Destrée, sa sœur. Bien. Très vite, cette œuvre-là, là aussi, qu'est-ce que vous en diriez en deux minutes?
Là aussi, c'est un
mélange.
Derrière, ça fait médiéval un peu.
Oui.
La nourrice.
Bah, c'est la femme de la nourrice.
Oui, c'est la nourrice.
Avec le en mailloté comme ça.
Bien.
Et à l'arrière,
une autre femme.
L'arrière, une autre femme.
Une servante.
Qui est dans une autre pièce.
Oui, par
l'arrière. Donc, une sorte de perspective à nouveau. Bien. Allez, on termine très vite parce qu'il faut qu'après.
Chambord.
Ça va. Et vous savez tous le nom de l'architecte de Chambord.
Mais bien sûr.
Bah, c'est, vous le savez tous.
On l'a su.
Ah non, vous le savez toujours. Viollet le Duc.
Non.
Ah ben il aurait pu, travailler à Chambord, Viollet le Duc après tout. Hein. Mais je ne crois pas qu'il ait jamais travaillé à Chambord. Ah, c'est peut-être même un des rares lieux.
L'escalier, on le
prépare. Ah, Léonard Vinci, ça vous dit quelque chose.
Oui, alors est-ce que ça serait pas en bois, le château qu'on a vu?
Ah, je ne sais pas. Alors, on corrige les copies?
Oui,
je crois qu'il faut.
Elle est vieille, la photo, là. C'est l'arrière, et les massifs sont plus comme ça.
Oui, ben, le jardin a été créé, en plus. Bien, alors... On va corriger les copies parce qu'on a quand même pas mal flotté. J'avoue. Hein, ouais. Alors, j'ai organisé ça d'abord en mettant d'abord les sculptures, puis les peintures, puis l'architecture, dans l'ordre. On va essayer un peu de remettre les choses en place. Ça vous va? Bien. Sculpture. L'œuvre la plus ancienne que je vous ai présentée, c'était effectivement celle-là. Qui est effectivement une mise au tombeau, qui est conservée dans la ville de Sofia. Qui est conservé dans la ville de Solesmes, c'est dans la Sarthe, je crois. Voilà, et effectivement, c'est une œuvre. Alors, on a eu un peu de mal, hein, mais c'est une œuvre qui est encore extrêmement médiévale. Hein. Des missions tombeaux, vous en avez plein au Moyen-Âge. Hein. Hein, dans la région, il y en a plein. La plus célèbre, donc, est celle de celui-là en Ossois, que je cite souvent, mais qui est vraiment un chef-d'œuvre du genre. Hein. Là, on est un siècle après. Hein. Donc, le thème est super médiéval. Tonnerre également, il y en a une très belle, par exemple. Hein.
Je tire sur scène.
Pardon ?
Châtillon-sur-Seine.
Et Châtillon-sur-Seine, Saint-Vorne, absolument. Très, très belle. Donc là, on est de... D'ailleurs, du début du XVIe, Châtillon-sur-Seine aussi. Donc, on est là devant un thème très médiéval, avec encore des éléments très médiévaux, on les a listés tout à l'heure, mais déjà des éléments très renaissants. Donc, on est dans une sculpture encore très traditionnelle, si j'ose dire, mais qui déjà intègre des éléments renaissants. Et un des éléments naissants, au-delà de ces éléments grotesques, ces espèces de candélabres qui viennent du regard sur la sculpture ou la peinture antique, c'est évidemment la surcharge d'éléments gothiques. Et c'était ce que d'ailleurs tu disais tout à l'heure. Ça, c'est très flamboyant. C'est-à-dire le fait de, j'allais dire, d'ajouter, de rajouter, de faire du super gothique, ça... C'est une démarque de la fin du gothique, le gothique flamboyant et la Renaissance. À la Renaissance, si vous voulez, on rajoute une couche sur le gothique en même temps qu'on met des éléments nouveaux qui sont vraiment très renaissants. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on a là vraiment cette surcharge gothique, cette espèce de gothique flamboyant qui est vraiment la fin du gothique et en même temps des éléments très renaissants. On trouverait ça, par exemple, à Chartres. Donc, là, je vous montre une chose, je ne veux pas vous... À Chartres, la clôture du cœur. Hein. Ben, c'est la même chose. Vous voyez là, on est vraiment dans la première moitié du XVIe. Tout ça continue tard. Hein. Tout ça est encore très gothique, mais c'est du super gothique, super chargé. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ce gothique flamboyant où, on en rajoute et on en rajoute encore. Hein. Le gothique, ce super beau gothique, même s'il y a déjà, au niveau des personnages, des éléments vraiment très renaissants et très antiquisants. Mais intéressant de voir vraiment qu'on a ça. Alors,
il n'y a pas un peu la même chose à Brou ?
Si, bon, Brou, on pourrait dire que c'est le même genre de choses, absolument, tout à fait. La pièce qui venait en deuxième solution, c'est ça, alors qui est une œuvre de Jean Goujon, pour le coup, hein, dont vous aviez cité Jean Goujon tout à l'heure. Donc, il y a une déploration du Christ, on en a parlé tout à l'heure, je crois qu'on l'a pas mal analysé. Hein. Là, pour le coup, on est dans un vocabulaire qui, sur le niveau du thème, est très médiéval. Ça ressemble à la mise au tombeau d'avant, hein, finalement, hein. Même si c'est la déploration, c'est à peu près le même thème. Hein. Mais c'est traité, alors là, d'une manière tout à fait nouvelle. D'ailleurs, Jean Goujon, vous le connaissez, parce que c'est lui qui a fait La Fontaine des Innocents à Paris. Vous la connaissez, la Fontaine des Innocents, à côté des Halles, toujours en place, même si les reliefs ont été remplacés par des copies des originaux et pas au Louvre. Bah, ça, c'est un des reliefs de la Fontaine des Innocents, hein, que vous voyez, si vous baladez dans Paris, vous ne pouvez pas ne pas tomber dessus, la Fontaine des Innocents, hein, de Jean Goujon. Et voilà un des bas-reliefs de la Fontaine des Innocents. Vous voyez une figure très antiquisante, avec un petit poutil qui l'est tout autant. Vraiment, Goujon, c'est un des grands noms du début de la sculpture, vraiment très renaissante en France. Alors, une œuvre que vous n'avez pas vue, c'est celle-ci, qui est celle de Ligier Richier. Hein. Ligier Richier est un artiste très important qui a travaillé en Lorraine. Il est né à Saint-Mihiel, mais il est mort à Genève. Et si je vous ai montré ça, ça c'est un thème très médiéval. Hein. C'est celui des danses macabres qu'on voit beaucoup à la fin du Moyen-Âge, mais aussi au début du XVIe siècle. Donc c'est encore une chose assez médiévale, même si c'est un transit pour orner un tombeau aussi. Hein. Le décor autour, lui, a été rajouté après, hein. il n'est pas contemporain de l'œuvre elle-même. Hein. Voilà. Mais ce qui est important également de souligner, c'est pour ça que je voulais montrer cette œuvre de Ligier Richier, qui est quand même très forte, hein, c'est que, si vous voulez, la Renaissance en France, c'est pas. Enfin, c'est toutes les régions, vous voyez ce que je veux dire. Hein. D'ailleurs, c'est un peu comme le Moyen-Âge. Hein. Il y a vraiment des quantités de lieux en France où on fait la Renaissance, si j'ose dire. Hein. Par exemple, en Lorraine, Ligier Richier est le grand sculpteur en Lorraine au XVIe siècle. Si vous voulez, la Renaissance France, ce n'est pas Paris, Fontainebleau, Nîmes-Saint-Olé et la Loire, c'est la totalité de la France. Hein. Il y a des choses partout. Alors, quelquefois des décalages, mais il y a des choses partout. De la même manière, l'œuvre suivante que je vais vous montrer, c'est celle-là, alors qu'on a longtemps attribué à Jean Goujon. Aujourd'hui, on pense que ce n'est pas lui qui l'a réalisé. Hein. Mais c'est vrai que le nom de Jean Goujon a souvent été affecté à cette sculpture. Là, qui provient du château d'Annet, pour le coup. Ça vient d'Annet. Hein. Ça ornait une des fontaines du château d'Annet, qui est le château de Diane de Poitiers. Hein. Donc évidemment, il y avait beaucoup de choses autour de Diane, notamment cette fameuse Diane appuyée sur un cerf, très typique du milieu du XVIe, très renaissante. Hein. Un thème renaissant, un thème antiquisant, avec une représentation qui ne l'est pas moins. Et ce que vous voyez là, c'est une œuvre de Germain Pilon. Germain Pilon avec Goujon, c'est vrai que les deux grands sculpteurs qui travaillent essentiellement à Paris, hein, à cette période. Ça, c'est une grande œuvre, ça fait plus de 2 mètres de haut, hein, et qui représente le Christ de la Résurrection. Vous avez dit Saint-Baptiste, c'est intéressant, parce qu'un temps, on lui avait mis une croix entre les mains, on l'avait transformé en Saint-Jean-Baptiste, justement. Mais c'est un Christ de la Résurrection, et je crois que vous avez bien vu le côté très michelangélique, très maniériste, très, là aussi, néo-antique, mais via les grands artistes de la Renaissance italienne, on voit bien, la dette, hein, de ces sculpteurs par rapport aux grands exemples. C'est intéressant parce que le même Germain Pilon lui voit ça, par exemple, hein, une chose magnifique, hein, qui est à l'église Saint-Paul-Saint-Louis à Paris, qui représente, vous voyez, une vierge de douleur, et qui est intéressante parce qu'on voit dans cette Germain Pilon, pourtant tardive, hein, une sorte de récidive médiévale. On dirait presque une Pietà, enfin, il manque le Christ, hein, mais c'est presque une Pietà, vous voyez. Donc vous voyez que ces artistes sont, quelquefois un peu récidives du côté du Moyen-Âge, vous comprenez ce que je veux dire. Ce que vous avez là est finalement beaucoup plus archaïque chez le même artiste que ce qu'on a vu avant, vous voyez. Même si la manière de représenter, je pense à vos fameux drapés qui nous ont tant fait couler de sa livre tout à l'heure, hein, auront quelque chose de très renaissant, justement. Mais le thème et même la manière de le présenter, elle, est assez archaïque et nous rappelle les Pietas, comme vous en avez au moins deux ici à Chalon, par exemple. Ça, c'était un petit, une petite peau de banane, parce que ce que je vous montre là est une œuvre de Jean Bologne, ou Jean de Bologne, on peut dire les deux. Parce que Jean Bologne est né à Douai, alors Douai c'est en France aujourd'hui, mais à l'époque c'est pas vraiment encore en France. Hein. Et Jean Bologne est quelqu'un qui très vite est allé en Italie et a travaillé en Italie. Parce qu'on parle toujours des artistes italiens qui sont venus travailler en France, mais on oublie de dire qu'il y a aussi des artistes qui venaient de France ou de ce qui est au niveau de la France qui sont allés en Italie. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et c'est le cas de Jean Bologne, qui est un artiste donc originaire entre guillemets de France, ouais, mais qui est allé en Italie. Il est originaire du sud, du nord, pardon, il est allé au sud. Donc vous voyez, c'est assez complexe cette question de la Renaissance. Ce n'est pas des pays avec des écoles et des frontières tout autour, c'est vraiment des échanges. Et dans un pays, aujourd'hui la France, vous avez des centres artistiques partout. Ce n'est pas Paris, la Vienne, la Loire, parce que vous savez, on est comme ça. Hein. Pour la Renaissance, c'est Paris, puis les Châteaux, la Loire et Fontainebleau. Ben, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est bien ce qu'il faut voir, ce que ces sculptures vous montrent. Passons à la peinture. Ce que je montre là est une œuvre d'un artiste qui s'appelle Corneille de Lyon. Enfin, on l'appelle Corneille de Lyon. Ce qui s'appelle bel et bien Corneille, mais il est originaire de La Haye. D'ailleurs, de son vivant, on l'appelait plutôt Corneille de La Haye. Sauf que cet artiste du Nord a travaillé plus au Sud, c'est-à-dire à Lyon. Ce qui fait qu'on l'appelle plutôt aujourd'hui Corneille de Lyon. Et ça, c'est intéressant parce que ça vous montre un peu ce que je disais avant. Vous avez beaucoup d'artistes qui étaient originaires du Nord qui sont allés vers le Sud, en l'occurrence de La Haye à Lyon. En tout cas, il y a beaucoup d'artistes du Sud qui sont allés vers le Nord. On en verra dans quelques instants. Je ne sais pas si vous avez vu il y a quelques années au Louvre une exposition extraordinaire. Hein. C'était à mon avis l'exposition à pas manquer dans les 10 dernières années, qui s'appelait François Ier et l'art des Pays-Bas. Hein. Exposition extraordinaire, hein. L'exposition du siècle, à mon avis, hein, qui montrait à quel point nous, Français qui voyons, vous savez, bon, la licence c'est simple, hein, c'est des Italiens qui viennent en France et pouf, ça fait une espèce de bombe et on découvre la Renaissance. Cette exposition montrait qu'en fait, la Renaissance en France, c'est à la fois des influences italiennes, évidemment, mais aussi des influences du Nord. Corneille de Lyon en est un exemple. C'est un artiste du Nord qui vient en France et qui, comme les Italiens, déclenche, vous voyez, ce courant artistique de la Renaissance. La Renaissance en France, ce n'est pas que l'Italie qui s'implante en France, c'est aussi le Nord qui s'implante en France et qui, je vais dire, déferle. Par parenthèse, des portraits comme cela. Hein. Vous parliez tout à l'heure du portrait de Martin Luther. Moi, je voudrais vous montrer ce portrait de Jean Clouet, qui est présent Guillaume Budet, vous connaissez, hein, oui, grand humaniste du XVIe siècle, et qui, vous voyez, est fait un peu de la même manière. D'ailleurs, Jean Clouet est lui-même artiste né à Bruxelles, mais qui a travaillé en France. Vous connaissez le portrait du roi de France, François Ier. Donc voilà, on a un artiste du Nord qui travaille au Sud, travaille en France. Vous voyez, c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Je voulais aussi vous montrer ça, qui est une œuvre de Jean de Chalon. Chalon avec un S. Chalon. Chalon Champagne. Chalon-sur-Marne. Parce que, tout comme pour la sculpture, il y a des centres régionaux, c'est pareil pour la peinture. Jean de Chalon, il est champenois, et c'est un artiste donc, qui, en Champagne, a beaucoup travaillé, et qui est, dans le domaine pictural, qui est une de ces écoles régionales de peinture. La Renaissance en France, c'est pas là non plus. Donc on le voit à Paris, la Vienne, la Loire et Fontainebleau, c'est plein de choses partout. D'ailleurs, vous connaissez certainement un artiste qui, au XVIe siècle, en Bourgogne, a eu un impact très important. C'est lui. Et lui, c'est qui? Vous en avez une peinture à Chalon. Il y a deux peintres ici. Vous avez un chef-d'œuvre à Autun. Et même deux. Et même trois. Il s'appelle Grégoire Guérard. Grégoire Guérard, c'est un peintre qui a travaillé. Alors, il est sans doute lui aussi originaire du Nord, mais il s'est très vite installé en Bourgogne et en Champagne. Et Grégoire Guérard a réalisé le grand triptyque de l'Eucharistie, qui est un des chefs de musée d'Autun. À Chalon, à la cathédrale Saint-Vincent, il y a un grand panneau de Grégoire Guérard, qui vient d'un polyptyque. Donc Grégoire Guérard, c'est un peintre très typique de ça, qui montre, n'est-ce pas, qu'il y a dans la France du temps, dans cette France de la Renaissance, des tas de domaines. Par parenthèse, c'est intéressant parce que ce tableau que vous voyez là est un volet de retable, comme le précédent. Ça, c'est l'extérieur, monochrome. Ça, c'est l'intérieur coloré. Même chose que pour Simon de Chalon avant. Vous me suivez? Oui. Alors, ce qui est amusant, c'est que ce tableau qui vient d'être acheté par le musée de Dijon il y a quelques années, c'est un volet de retable, et on a retrouvé la partie centrale du retable auquel elle appartenait. Il se trouve dans l'église de Plombières-les-Dijon. Si vous allez à l'église de Plombières-les-Dijon, vous verrez ça. Eh bien, ce volet était le volet droit de ce retable. Maintenant, il reste à trouver le volet gauche. OK ? Grégoire Guéra est vraiment quelqu'un qui incarne bien cette renaissance explosée dans toutes les régions de France. Ça, c'est un tableau de Rosso. Alors, Rosso, vous savez, c'est un artiste italien qui, comme Léonard, vient en Italie à l'invitation de François Ier. Quel est le grand œuvre de Rosso?
Le château qu'on a vu tout à l'heure,
c'est Fontainebleau. Et c'est quoi Fontainebleau? C'est ça. Je me rappelle la galerie François Ier. Oui. Voilà. Alors, ce tableau-là, il a été fait pour la chapelle du château d'Écouen, pour Anne de Montmorency. Hein. Alors que, effectivement, à Fontainebleau, Rosso a peint la galerie François Ier, et notamment, là, vous savez, un détail de la galerie François Ier. Il y a deux autres artistes avec Rosso qui sont venus pour créer ces œuvres à Fontainebleau. On appelle ça la première école de Fontainebleau. C'est qui?
Le Prématis.
Prématis.
Oui.
Et voilà les œuvres de Prématis à Fontainebleau. Il y en a un troisième? Rosso, Prématis. Le troisième, c'est Niccolò dell'Abate. Hein? Rosso, Prématis, Niccolò dell'Abate, c'est les trois Italiens, on a eu d'autres, hein, les trois plus importants, qui, invités par François Ier, viennent à Fontainebleau et créent ce qu'on appelle l'école de Fontainebleau. L'école de Fontainebleau, c'est ça. Donc vous voyez que dans cette première moitié du XVIe siècle, toute une série d'Italiens arrivent et vont complètement perturber la peinture en France. Ce qui veut dire que ça va créer une sorte d'émulation au niveau des peintres français. Par exemple, Jean Cousin, qui est un bon bourguignon, enfin, un bourguignon du Nord, Renaissance. Hein. Jean Cousin, qui est non pas sculpteur, mais peintre. Et là, il y a Jean Cousin le père, Jean Cousin le fils, il y en a deux. Hein. Fait partie de ces peintres provinciaux, mais qui montent à Paris, sans séparation de Paris. Et c'est lui qui a fait cette fameuse Eva Prima Pandora. Il y a quelques années, il y avait une exposition au musée d'Autun concernant l'Ève d'Autun. Vous l'avez vu peut-être? Non? Ouais. Et bien, dans l'exposition sur l'Ève d'Autun, il y avait Eva Prima Pandora. Parce que vous la connaissez, l'Ève d'Autun. Illustre chef-d'œuvre roman. Hein. Comme ça, vous savez, une Ève nue couchée. Hein. Ben, finalement, vous avez là, plusieurs siècles après, hein, une sorte de descendante de l'Ève sculptée d'Autun. Là, vous avez un autre artiste originaire, lui, de Beauvais, de Picardie, mais qui a travaillé à Paris, qui s'appelle Antoine Caron. Et la scène que vous voyez là, c'est Auguste et la Sibylle de Tibur. Auguste, un jour, va voir la Sibylle de Tibur. Tibur, c'est Tivoli, à côté de Rome. Hein. Et lui dit, dis donc, c'est moi, hein, le personnage le plus puissant du monde. Hein. Et la Sibylle lui dit, eh ben non, il y a quelqu'un qui est plus puissant que toi. Regarde dans le ciel. Et dans le ciel, la Sibylle montre, dans un nuage, la Vierge d'un enfant qui apparaît. Parce que je vous rappelle que c'est sous le siècle d'Auguste, à l'époque d'Auguste, sous le règne d'Auguste, qu'est né le Christ. Et la Sibylle de Tibur, les Sibylles, vous savez, sont des prophètes, enfin des prophétesses. Hein. Et la Sibylle, elle montre dans le ciel à Auguste celui qui est le plus puissant du monde. C'est pas Auguste l'empereur, qui se croit le plus puissant du monde. Il possède toute la Méditerranée, si vous voulez. C'est le Christ. Et c'est ce qu'elle est en train de lui montrer. Hein. Elle montre à Auguste, effectivement, vous avez là une sorte de paysage de Rome complètement réinventé. Vous l'avez bien vu tout à l'heure. Ça, c'est une œuvre de François Clouet, qui est le fils du Clouet précédent, le portrait de Guillaume Dudé que je vous ai montré. Alors, effectivement, c'est une œuvre à la fois très renaissante, hein, cette fameuse antique au premier plan, avec des éléments plus rustiques, plus médiévisants d'une certaine manière. Hein. Et puis alors, il y a là, mais je ne vais pas vous dire ce que ça irait trop loin, il y a des quantités d'éléments très symboliques. Par exemple, vous voyez là une licorne. Ça, c'est très médiéval. Hein. Mais il y a derrière, vous voyez, toute une série de choses. D'ailleurs, ces tableaux sont très difficiles à interpréter. Mais à la Renaissance, on aime beaucoup faire des tas d'interprétations souvent très sinueuses qui rendent ces œuvres souvent très complexes. D'ailleurs, dans la région, vous connaissez un autre exemplaire, pas dû à Clouet, hein, qui est au musée de Dijon, cette fameuse femme à la toilette, hein, que vous connaissez tous, qui est en gros la même. Hein. Et puis enfin, on termine avec les peintures, avec cette œuvre de Toussaint Dubreuil, qui appartient, lui, à ce qu'on appelle la deuxième école de Fontainebleau. Vous savez, après ces artistes de l'école de Fontainebleau qui sont arrivés, Rousseau, Primatis et le troisième, et après tous ces artistes français comme Jean Cousin, qui vont être complètement traumatisés parce que les Italiens leur montrent, il va y avoir une espèce de deuxième salve tout à fait française de l'école de Fontainebleau avec des gens comme Toussaint Dubreuil, qui là nous manque Angélique et Médor. Médor, ce n'est pas un chien, c'est un chien des bergers. Hein. Médor, c'est un. C'est une histoire d'Angélique Eleanor qui est tirée de Jérusalem délivrée du Tasse. Vous savez, ces histoires avec à la fois des chevaliers, etc., des rois, des reines, également des bergers. Et là, effectivement, c'est Médor qui est en train de graver son nom et celui d'Angélique sur un arbre. Et on termine par l'architecture. Ça, c'est une vue du château de Meillan, hein, effectivement, dans, le long de dans l'ouest de la France, nous dirons. Vous avez bien vu hein, que c'était un château encore très médiéval. Les fenêtres à meneaux, ça existe depuis le XIIIe siècle. Hein. C'est quelque chose d'assez médiéval, la fenêtre à meneaux. Hein. Donc on a effectivement un corps de logis très médiéval, mais cette tour est effectivement très gothique flamboyant, avec une espèce d'accumulation de motifs gothiques. C'est trop gothique pour être encore gothique, vous voyez ce que je veux dire. C'est tellement gothique que ça devient début de la Renaissance, en quelque sorte. Et puis regardez au-dessus, c'est une espèce de petit bâtiment avec un petit dôme. Ça, c'est pas du tout gothique. À l'époque gothique, vous auriez un toit comme ça. Ça, c'est un toit gothique. Ça, c'est pas du tout un toit gothique, avec ce petit empiéto qui est autour. Donc, vous voyez, vous avez effectivement plaqué sur la façade une tour trop gothique pour être gothique, avec ce couronnement qui est pas du tout gothique. C'est-à-dire qu'on a comme plaqué un élément renaissant sur un bâtiment gothique. Et là, avec Chambord, hein, on a un château, effectivement, hein, dont l'escalier, mais sans doute le plan général est plus vraisemblablement à Léonard de Vinci. Hein. Maintenant, on en est à peu près certain, on pense que c'est Léonard qui a créé, avec d'autres, hein, mais qui est à la base de cette construction très complexe, mais qui est encore très médiévale. Parce que c'est vrai que si on voit la base de ça, c'est quand même des grosses tours, hein, avec des murs, ça c'est vraiment médiéval. Hein. Mais finalement, c'est plutôt l'organisation symétrique interne. Et puis les décors, qui, eux, sont plus renaissants. D'ailleurs, on voit une chose un peu équivalente, ici. Et Écouen, vous avez bien raison. Hein. C'est le château d'Écouen. Le château d'Écouen, il est intéressant parce que la façade que vous voyez là, avec ses fenêtres à meneaux, elle est très début 16e, encore très médiévale, encore très gothique, avec ses meneaux. Mais dessus, Bulan, va au milieu du 16e siècle pour un moment ainsi plaquer ce qui ressemble à un arc de triomphe romain. Qui, vous voyez, paf, plaqué sur la façade.
C'est le musée de la Renaissance.
Voilà, c'est le musée de la Renaissance, absolument. D'ailleurs, on a ça sur l'aile nord, mais on a ça de la même manière sur l'aile sud. Vous voyez que Bulan, il plaque sur une façade encore très traditionnelle, une espèce d'arc de triomphe très antique. D'ailleurs, c'est là que se trouvaient jadis, se sont trouvés à un moment, les fameux esclaves de Michel-Ange, qui sont au Louvre aujourd'hui. Voilà une vue, d'ailleurs, extérieure, du château d'Écouen, qui est un château encore très traditionnel, un château fermé, très médiéval, avec des douves, mais Bulan va au milieu du XVIe siècle y mettre cette espèce de touche antiquissante.
Il fait penser à Cormatin.
C'est vrai, Cormatin, même combat, absolument. Et il y a dans le château de Cormatin des œuvres de peintres de cette deuxième école de Fontainebleau, à laquelle appartient Toussaint Dubreuil, dont je vais parler tout à l'heure. Fontainebleau pourrait dire la même chose avec cette façade, avec des éléments encore très médiévaux, mais aussi très novateurs. Attention, l'escalier, lui, ben, du début du 17e, donc il a été plaqué après. Hein. Et ça, enfin, ben, vous avez raison, c'est le Louvre. Hein. Hein, vous le disiez tout à l'heure, hein. Tout le monde dit, oh, ben, oui, moi le premier, finalement. Mais c'est le Louvre, vous avez raison. C'est l'aile construite par Pierre Lescot dans la cour carrée. On a là, finalement, vous voyez, on a fait du chemin hein, depuis Château de Meillan, dont je vous ai montré une vue tout à l'heure, avec son escalier très flamboyant. Hein. Vous voyez comment là, on est devant une architecture qui finalement appelle l'architecture classique que l'on va voir se développer en France au début du XVIIe siècle. Est-ce que pour vous, tout ça est plus clair? Non?
Oui,
c'est bon. Moi, je veux dire, c'est pas compliqué. Le 16e siècle en France, c'est quoi? Il faut comprendre deux choses. On commence gothique, vous l'avez vu quand même.
Oui.
C'est-à-dire connaître des éléments gothiques. Un trilobe, vous savez ce que c'est.
Oui.
Des chouvisés, vous savez ce que c'est.
Oui.
Ben, ça, c'est gothique. Une colonne avec un gilet de corinthien, vous savez ce que c'est.
Oui.
Et bien, ça, c'est très renaissant, parce que c'est très antiquisant. Vous voyez ce que je veux dire? La Renaissance, c'est ça. On passe du gothique, et vous savez reconnaître des éléments gothiques. Et on va vers l'antique, et vous savez reconnaître des éléments antiques. Quand vous voyez des chouvisés, c'est pas antique. c'est gothique, c'est l'aube médiévale. Si vous venez chez les deux Corinthiens, c'est antiquisant, donc c'est renaissant. C'est clair, ça?
Oui, mais c'est dans la peinture, c'est compliqué dans la peinture. Dans la peinture, c'est pas ça.
Quand on voit ou une architecture ou même des tableaux, il y a des fois où on est très gêné par ça. On se dit, en fait, c'est quel point que ça.
Ah ben, enfin, parce que c'est effectivement une chose qui mélange des choses. Effectivement, ça peut dérouter. Hein. C'est pour ça qu'il faut en voir beaucoup. Il faut voir beaucoup. L'histoire de l'art, c'est voir. Si on va demander deux, trois trucs, il faut faire attention de ne pas se laisser abuser par des choses. Par exemple, il y a le thème. C'est important, le thème. Mais il n'y a pas que, aussi. Dernière petite chose, avant de terminer, la petite question du jour.
Sculpture encore.
Si, mais pas ici.
On l'a déjà vu.
Certains d'entre vous en ont entendu parler il n'y a pas longtemps.
Bah oui,
c'est
vol.
Ensuite,
ah oui, vous le connaissez. Vous savez, on se dit toujours, la Renaissance en France, c'est simple, c'est François Ier qui invite Léonard de Vinci, Rousseau, Primatis, Niccolo della Abate, et c'est l'école de Fontainebleau. On va construire Fontainebleau, la galerie d'Ulysse, mais on va également construire Chambord. Bien. Le problème, c'est qu'avant, dès le XVe siècle, en fait, des Italiens déjà sont arrivés en France. C'est important de le dire parce que tout est toujours plus compliqué. On a des visions trop faciles, trop simples. Encore une fois, la Renaissance, c'est forcément le XVIe siècle, etc. Or, dès le XVe siècle, il y a un artiste qui s'appelle Francesco Lorana, qui est invité en France par le roi René, et qui va réaliser toute une série de sculptures. Alors, j'ai fait récemment Germain le gouvernement là-dessus, mais qui est important parce que ça montrait comment la Renaissance en France, ça commence pas avec François Ier qui est un c'est plus compliqué que ça, c'est plus subtil. Dès le XVe siècle, on voit des artistes, et le premier artiste italien, j'allais dire important, vraiment invité en France par un grand prince, c'est Francesco Lorana. Et Francesco Lorana, vous voyez ici un masque féminin, alors je ne vais pas faire la conférence de Germain, etc., parce qu'on se pose une question, ce masque féminin, on reconnaît au moins une vingtaine d'exemplaires, hein, et on se demande qui c'est, enfin voilà, bien, je ne vais pas revenir là-dessus, mais Lorana, c'est très important, parce que c'est avant la Renaissance, j'allais dire officielle, hein, un artiste italien invité en France. Donc, avec la science d'aujourd'hui, j'espère que vous aurez bien vu que tout est plus compliqué qu'il n'y paraît. Il ne faut pas rester sur les chemins. En même temps, ce n'est pas parce que c'est compliqué que c'est si compliqué que ça. Il ne faut pas rester sur les chemins simples. La Renaissance en France, c'est encore très gothique, mais petit à petit on assimile les éléments nouveaux, ça devient la Renaissance. Il y a des centres, Paris, la Veille-la-Loire, Fontainebleau, mais il y a également plein de centres partout. Il y a des influences italiennes, mais très tôt, avant même ce qu'on appelle la Renaissance, la preuve, il y a également des influences du Nord, et il y a même des artistes, entre guillemets, originaires de France, qui vont à l'extérieur. La Renaissance, c'est ça. Et finalement, si aujourd'hui je vous ai senti un peu dérouté, hein, parce que la Renaissance française, c'est compliqué. Hein. On n'en parle pas depuis très longtemps, à vrai dire. Et encore une fois, on avait une vision binaire, on se disait, bon, la Renaissance, c'est simple, c'est l'école de Fontainebleau, point barre. Eh bien, c'est plus compliqué que ça. Mais l'histoire de l'art, c'est comme les hommes, c'est compliqué.
En quoi ce masque est-il Renaissance?
Alors, le problème est. Je ne vais pas faire les conférences de Germain. Il aurait fallu venir. On sèche les conférences de Germain. Regardez ce que vous avez là, si vous voulez, c'est un élément de quelque chose qui était plus complet à l'origine. C'est-à-dire que vous remarquez sans doute qu'on a là quelque chose, mais l'arrière n'est pas sculpté parce que c'était appliqué sur quelque chose d'autre, si vous voulez.
Ce que je veux dire, c'est si on vous présentait ce masque comme ça, pour dire que c'est de la Renaissance.
Alors, il y a d'abord le matériau, le fonctionnement du marbre, ça c'est un élément. Ensuite, le visage, alors ça pourrait faire penser à des gisants médiévaux, hein, en marbre justement, où on a battre. Voilà. Simplement, le volume, la manière de représenter cette sorte de ces yeux à moitié ouverts, on ne trouverait pas la chose vraiment équivalente. Et puis, les visages médiévaux étaient faits, j'allais dire, d'un seul tenant, si vous voulez. voyez ce que je veux dire. Là, on a un élément qui, en fait, était fait pour être plaqué sur des éléments, sans doute, d'une autre matière, par exemple, il y avait sans doute, par exemple, des cheveux, hein, mais qui étaient faits peut-être dans un autre type de marbre, ou alors il y avait des angles métalliques, etc. Et qu'on a là, un élément qui, à l'origine, était fait pour être plaqué sur d'autres, vous voyez, en d'autres matériaux. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit au Moyen-Âge, mais qui est quand même très, très important à la Renaissance, vous voyez. Alors, il y a des questions à la fois stylistiques, mais également techniques, hein, qui vont vers ça. Et puis, de Francesco Lorana, on connaît bien plein d'autres choses. Et quand on voit cette œuvre-là, une autre œuvre de Lorana, on voit comment c'est vraiment un artiste, alors, d'une Renaissance précoce. Hein, Lorana, vous le voyez, hein, c'est en gros la deuxième moitié du 16e, du 15e siècle. Voilà. Vous voyez, c'est. Alors, on a vu la dernière fois, hein, que la Renaissance en Italie commençait dès le 15e siècle, hein, même dès la fin du 14e. Hein, science italienne, elle est plus précoce qu'en France. Hein. Et c'est vrai que quand on voit les autres œuvres de Lorana, ben, on est vraiment devant un artiste qui est du 15e siècle, donc qui est encore un peu embourbé dans une tradition du Moyen-Âge, mais qui est déjà très récent. Voilà, sur les trois éléments, le style général, la technique, hein, et le contexte de création de Lorana qui montre qu'on est devant une œuvre de la Renaissance. Voilà. Ah non, c'est pas... Mais il faut voir, il faut... L'histoire de l'art, il faut bouffer des images. Si on se contente de voir deux, trois coups de temps en temps, il faut regarder rien, il faut en voir énormément. Plus on en voit, plus on met les cartes en place dans sa tête. C'est ça qui est très important. Ok ?
Merci.
Et donc, là,
je vais vous mettre ça sur la clé. Alors...
Merci Martine
Bonne soirée à vous.
Bonne fin d'année.
Merci.